Faut vraiment faire plus. Sinon, c'est pas.
Ouais. Oh, putain, j'ai une voix chelou là.
Bah, on dirait que je suis dans des fesses.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Ce qu'il dit!
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, pour votre plaisir, j'ai avec moi une fine équipe, à commencer par Elodie.
Salut.
Juan.
Bonjour.
Et Hicham.
Salut.
Alors, aujourd'hui, malheureusement, on a une mauvaise nouvelle. Voilà, il faut savoir que malheureusement, Camille ne sera pas avec nous pour cet épisode. Camille nous a quittés vers d'autres aventures. Va vulgariser avec les nuages, petit ange. Tu nous manqueras beaucoup. On dit que ce sont les meilleurs qui partent en premier et tu auras fait mentir les statistiques. Bon, non, on déconne, en fait, c'est juste qu'elle n'était pas dispo et elle nous rejoindra avec grand plaisir pour le vôtre et pour le nôtre au prochain épisode. Mais on a une petite surprise pour vous, vu qu'on a un invité aujourd'hui. Et côté pratique de la chose, cet invité s'appelle Camille. Salut.
Salut.
Ça va être super pratique.
Et ouais. Alors, c'est pas du tout une feinte, hein. C'est bien une autre personne qui a le même prénom. Hein. Ça arrive dans la vraie vie. J'espère que vous y ferez.
Ça arrive.
Sérieux, j'ai pas choisi la seule Camille.
Non. Elle t'a menti.
Elle m'avait dit qu'elle était unique.
Ah.
Elle est pas vraiment morte, on t'a dit. Détends-toi.
Ah bon ? Ah merde.
Oh, il a pas l'air stressé.
Elle va très bien, elle nous rejoindra la prochaine fois. Et du coup, aujourd'hui, alors, de quoi vous allez nous parler, Juan ?
Alors, moi, je vais vous parler des virtual bands. Mmh. Je vous expliquerai en détail ce que c'est, mais ça va être assez musical.
Parfait. Hicham ?
Moi, j'ai trouvé quelques petites anecdotes sur les avions qui risquent un peu de vous rassurer ou pas.
Est-ce qu'il y en a ici qui ont peur dans les avions ?
Non.
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 Eh bah, bon courage.
Vous allez peut-être avoir peur.
Et ben, demain, vous aurez peur.
Ça va changer.
Et Camille ?
Eh ben, moi, je vais vous parler de chamanisme.
Ah, j'ai hâte de voir ça.
En plus, moi, j'y connais rien du tout.
Moi non plus.
On va apprendre plein de choses.
Et bah voilà, bah Camille n'est pas là, personne me demande ce que je vais présenter.
Et toi, Elias, qu'est-ce que tu vas présenter ?
Et bah voilà, c'est l'autre Camille qui prend le relais, merci. Bah moi, je vais vous parler des ransomware. Et voilà, bah encore une fois, je suis très déçu par vous. Hein. Vous remarquerez qu'il y avait un classement au dernier épisode et que Monica et Karim étaient en dessous. C'est pour ça qu'on les a évincés aujourd'hui. Ils ne seront pas avec nous aujourd'hui non plus. Non, plus sérieusement, bah pareil, ils nous préparent un bon sujet pour la prochaine fois. On va maintenant commencer, si vous le voulez bien, par le sujet de Juan.
Eh bien, allons-y.
C'est une star dans le monde entier, pourtant, elle n'existe pas.
Before the early 2000s, if you heard the term virtual band.
Une chanteuse virtuelle qui n'existe pas réellement.
Ça n'existe pas.
Alors en effet, je vais vous parler des virtual bands. Alors on va commencer par, c'est quoi un virtual band, d'après vous? Si vous deviez me définir un virtual band.
Une bande virtuelle.
Un groupe virtuel.
Un groupe virtuel, ouais. Ouais. Mais encore.
Bah ouais, j'ai deux explications possibles. Soit un groupe où les personnes ont pris une fausse identité, je sais pas si ça rentre dans ta définition.
Ça peut.
Soit bah, de la musique qui est faite par des personnages fictifs.
Ok. En fait, les deux définitions sont bonnes, c'est pas encore fixe comme terme, virtual band. Un virtual band, ça va être en fait un groupe qui est représenté par un ou des avatars. Donc soit par une personne qui n'assume pas ce qu'elle fait, soit par volonté créative, on va en parler plus tard.
Mélenchon.
Mais Mélenchon oui, les hologrammes, ça compte ou pas ?
Alors, les hologrammes, ça peut compter, ouais. Comme j'ai dit, la définition est assez large. Je vous donne un exemple tout bête, mais Daft Punk, typiquement, ils sont pas vraiment classés en virtual band. Alors, est-ce que c'est parce que tout le monde sait qui c'est en vrai ? Ou est-ce que c'est parce que leurs avatars sont physiquement présents ?
Oui.
Ils ont juste un casque sur la tête ? C'est possible. À votre avis, ça remonte à quand, cette histoire de virtual band ?
Année
90 ?
Ouais, que j'aurais 80-90.
Vous êtes sûr ?
Non, bah après pendant la Première Guerre mondiale, je sais qu'il y a eu beaucoup de virtual band pendant la Première Guerre mondiale, mais
pas trop non. Non, le premier virtual band, il remonte à 1958.
Oh, sa mère.
Et ce qui est marrant, c'est que vous le connaissez, ce virtual band.
Les Cœurs de l'Armée Rouge, oui.
Non, c'était un vrai groupe. Je vais vous faire écouter et vous allez me dire si ça vous parle.
Les Aristochats.
Non. Mais on est sur du dessin animé.
On dirait le générique de Cat Size.
Non.
Si je vous dis Alvin et les Chipmunks,
ouais,
ça vous parle ou pas?
Ah,
je dis Chipmunks.
Alors il s'avère que c'est redevenu à la mode assez récemment, Alvin et les Chipmunks, mais en fait ça date de 1958. Et ça date d'un mec qui a découvert qu'il pouvait monter le pitch de sa voix ou l'accélérer pour avoir une espèce de voix particulièrement insupportable. Et il a utilisé ça pour créer Alvin et les Chipmunks.
Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est que le pitch pour que les gens comprennent bien?
Le pitch, ça va être la hauteur de la voix. Là, par exemple, j'ai un pitch assez bas, puis j'ai fait moins de 10 mois pitch.
Ah, c'est bien fait. Impressionnant.
Sans effets spéciaux. Bravo. Donc, c'était en effet Alvin et Chipmunks, le tout premier. Pour simplifier, est-ce que vous connaissez un virtual band, vous? J'imagine que oui.
Gorillaz.
Gorillaz, voilà. Tout le monde se réfère à peu près au même. Ce qui tombe bien parce que c'est le plus intéressant. Donc, Gorillaz, ça date de 98. Vous savez qui a. Qui c'est, Gorillaz?
Le chanteur de Blur.
Damon Albarn, le chanteur de Blur, tout à fait, mais c'est deux personnes, Blur.
Ah, le rappeur, là,
Non, enfin, il y a eu plusieurs rappeurs dans Gorillaz. Non, la deuxième partie du duo Gorillaz, c'est Jamie Hewlett, qui est le dessinateur de Tank Girl et qui a dessiné aussi tous les personnages de Gorillaz. Donc, c'est tout un univers, en fait, qu'ils ont créé. Est-ce que vous pourriez me nommer les membres de Gorillaz? Pour le coup, les membres fictifs.
Pas le moins du monde.
Il y a la petite là, qui se dandine.
Il y a la petite qui s'appelle Noodle, tout à fait. On a Toody, Murdoch, Russell et Noodle, qui sont en fait chacun des caricatures d'icônes de la musique. Noodle, typiquement, ça va être un genre de Björk. Murdoch, ça va être un genre de Marilyn Manson. Toody, ça va être Damon Albarn, pour le coup, le chanteur pop un peu perché. Et ils voulaient vraiment caricaturer ça pour contrer, en gros, l'influence de MTV. Pour eux, en gros, ils étaient colocs, il faut savoir, à l'époque, donc ils ont pu en discuter largement avant de créer Gorillaz. Pour eux, le problème, c'est qu'on créait des stars, on s'intéressait davantage à leur personnalité, à leur présence dans les médias qu'à leur musique. Et en gros, créer des avatars, c'était une manière de ne pas être présent dans aucun média, quel qu'il soit. Ça s'est un petit peu retourné contre eux, étant donné qu'ils ont eu, si je dis pas de bêtises, 7 disques de platine, 5 Grammy Awards, 2 MTV Video. Donc bon, on a quand même beaucoup parlé d'eux, mais on n'a pas parlé de Damon Albarn, à proprement parler, on a parlé du groupe Gorillaz. Alors juste par curiosité, parce que j'imagine que vous l'avez peut-être pas entendu, je vais vous faire écouter le premier morceau de Gorillaz, qui s'appelle Ghost Train.
Ah, si.
Alors on reconnaît Damon Albarn.
Complètement.
Ah, je connais pas le morceau.
Donc on rappelle que le premier album de Gorillaz est sorti en 2000 ans, il s'est vendu à 7 millions d'exemplaires, leur deuxième album Demon Days en 2005, et c'est celui que vous connaissez sûrement en fait, Demon Days. Ça va sûrement vous parler si je vous fais écouter ça.
Bien sûr. Attends, mais ça, c'est avant Rehash?
C'est avant, pardon?
Rehash ou il y a Clint Eastwood.
Alors, Clint Eastwood, l'album était éponyme, hein, il s'appelait Gorillaz, et non, Clint Eastwood est sorti avant. C'est celui qui est sorti en 2001, pour le coup. Mais comme il était dans le générique d'intro, je voulais épargner. Et ils ont sorti un nouvel album récemment qui s'appelle Humans. Je vous en mettrai un petit morceau à la fin, histoire d'eux. Donc Gorillaz, c'est les plus connus et on peut dire que c'est les meilleurs, à peu de choses près. Je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord là-dessus.
Pas du tout.
Maintenant, il y a des bons virtual bands aussi que vous connaissez pas forcément. Alors tu m'en parlais plus tôt, donc celui-là, toi Ilias, tu le connais. Les autres, je ne sais pas. Je vais vous faire écouter et je vais vous en parler un petit peu.
C'est dommage qu'on ne voit pas ce que fait Ilias.
Ça, je suis en train de flexer là.
Ouais, il a.
Alors de qui on parle?
Puppet Mastaz.
On parle de Puppet Mastaz.
Ça défonce.
Tu peux nous en parler un petit peu, Ilias?
C'est un collectif européen qui est basé à Berlin, où il y a plein de MC en fait qui sont sous identité secrète, puisque en fait c'est un groupe de marionnettes. Donc tous les personnages du groupe, ce sont des marionnettes. Quand ils font des concerts sur scène, ce sont des marionnettes qui chantent. Donc il y a soit les chanteurs, soit d'autres personnes qui agitent les marionnettes pendant que les autres chantent. Et donc ça, c'est fou. Chaque rappeur fait une ou plusieurs voix différentes. Donc c'est très très expressif. Et il y a des mecs qui ont fait des trucs très sympas. Il y en a quelques-uns qui sont sortis de l'ombre récemment, Blake Worrell notamment. Mm-hmm. Et voilà, c'est vraiment super intéressant. C'est très expressif et c'est ultra satirique. Donc ouais, super intéressant.
Pour simplifier, en gros, on parle des Muppets sur scène. En gros, c'est un groupe de hip-hop. Alors, est-ce que d'après vous, on est sur un virtual band quand même? Bah, pas trop. En fait, on est entre les deux. Un petit peu comme pour Daft Punk, on sait pas trop puisque on sait qui c'est. Ils sont sur scène finalement. C'est juste qu'il y a des,
je crois
des
petites marionnettes derrière. Qui étaient sur scène.
Les marionnettes, ce sont pas les marionnettes qui chantent, si tu veux.
Ouais. Dommage.
Il y a des personnes qui chantent derrière.
Incroyable.
Et dans le genre
des virtual bands qui sont bien mais qu'on connaît pas forcément, on parlait de Daft Punk tout à l'heure, je vais vous faire écouter un morceau, vous allez me dire.
Ouais, c'est un de leurs premiers, ça.
Donc c'est Daft Punk.
Ouais. Mm-hmm.
Et bien dans l'univers de Daft Punk, c'est pas Daft Punk.
Oui, c'est le groupe.
De Daft Punk, c'est les Crescendolls, qui est un groupe virtuel créé par Daft Punk, qui sont des personnages tout bleus. Je sais pas si vous vous rappelez des anciens. Oui, tu allais poser une question.
Je me demandais comment s'appelait le film déjà qu'ils avaient fait sur leur album, là. Interstellar 5155 ou
c'est un truc comme ça, mais il y a eu plusieurs films. Là on parle bien des Crescendals, donc qui sont le virtual band de Daft Punk. Ils ont un peu laissé tomber, ça concernait pas toute leur carrière, mais on n'y pense pas forcément. Là pour le coup Daft Punk n'est pas un virtual band, mais les Crescendals en sont un. Alors il y en a aussi que vous connaissez, mais dont vous vous rappelez pas forcément. Je vais vous en faire écouter un.
Et le coup,
les Destiny's Child.
Ouais, donc qui était ce morceau de Magic Key avec Wanty et Coolty. Il y avait tout un scénario autour de ces petits personnages. Alors en gros ils ont voulu émuler Gorillaz, ça a beaucoup moins bien marché quand même, puisqu'ils avaient écrit toute une histoire, tout un scénario, mais on s'en rappelle quand même beaucoup moins que Gorillaz. Pourtant ça a fait un sacré carton.
Ça c'est un virtual band.
C'est un virtual band puisque ce sont des personnages animés, il y en a énormément, même si le même chanteur peut faire plusieurs personnages, ce sont des avatars virtuels en effet. Alors je vous en mets un, mais vraiment histoire 2.
Ah oui.
Non, je connais pas.
Tu mens.
Tu mens.
C'était génial, ça.
Ça rappelle la colo.
C'était en quelle
année ? C'était en quelle année ? Je me souviens pas. Je crois que c'était en 2000. Il me semble que c'était en 2000, Daddy DJ, donc chacun en pensera ce qu'il veut, mais on était sur un concept de virtual band aussi. Alors... Là, on parlait de trucs assez connus. Des virtual bands, il y en a qu'on connaît pas forcément et qui sont très très bons ou très très connus. Si je vous parle de Hatsune Miku, ça vous parle ou pas ?
Pas du tout.
Hatsune Miku, c'est étonnamment le virtual band le plus connu au monde, devant Gorillaz en fait.
C'est connu par les Asiatiques, je parie.
Principalement par les Asiatiques, les Américains connaissent beaucoup bien. Hatsune Miku, en fait, pour vous expliquer, avant d'être un virtual band, c'est un logiciel. C'est un Vocaloid, c'est un logiciel qui permet en gros en tapant du texte de lui faire chanter à l'ordinateur. D'accord. Sauf que ce logiciel, il faut qu'il ait une voix, comme Siri a une voix, Google a une voix, Hatsune Miku a une voix, et donc toutes les chansons qui sont interprétées par ce logiciel sont des chansons qui sont interprétées par Hatsune Miku. Donc d'accord. Ce qui est intéressant, contrairement à un Gorillaz par exemple où on a des musiciens qui ont une forte personnalité derrière, Hatsune Miku, ces tubes vont être créés par des anonymes en fait, par internet. Donc on va avoir des forums où des mecs vont composer des chansons, c'est un autre mec qui va faire le clip, et ce sont plein d'anonymes qui se mettent ensemble pour sortir un tube de Hatsune Miku, qui fait des concerts donc en hologramme. Tu me parlais de Mélenchon tout à l'heure, on est un peu sur le même principe, sauf qu'elle claque
si
pas
Siri
du doigt au début.
Des concerts, en fait.
C'est un peu ça, et ça rassemble des millions et des millions de personnes, et en fait ce qui est génial c'est qu'elle va jouer en concert des chansons qui ont été composées par des nobody sur internet. Alors elle a un tube assez connu, je vous ai mis le plus accessible chez nous on va dire, et vous avez tous sûrement déjà entendu ce truc.
C'est la chanson du poireau.
Pas du tout énervant.
C'est la chanson du poireau, exactement.
Ah, je pourrais écouter ça des heures, mais vraiment. C'est un petit côté détendant, c'est léger.
J'aime bien comment t'as fait genre que tu connais les paroles. Stop.
Stop. Assez.
Hatsune Miku, donc.
À tes souhaits.
Et là, on va arriver sur mon préféré. Gardez en tête que c'est un virtual band, parce que j'ai découvert que très peu de gens le savent. Alors ça c'est The Archies. Ah, pourquoi The Archies? Si je vous dis Archie, Mystère et compagnie, peut-être ça vous parlera davantage.
Oui, sur M6.
C'était un dessin animé, ça venait d'un dessin animé précédent qui s'appelait The Archies. Et en fait, ils ont utilisé ces personnages de dessin animé pour vendre cette chanson. Donc cette chanson n'a pas d'auteur officiel, mis à part The Archies, donc elle a été virtuellement composée par des personnages de dessin animé. Le clip, ce sont ces personnages de dessin animé qui le jouent. Donc ça vous fera une petite anecdote pour les repas du dimanche, parce que je vous assure que j'ai trouvé personne qui savait que cette chanson venait d'un virtual band. Donc jusque là, on aime bien les virtual bands, c'est sympa. Ben, on va tomber dans
Oh non, aussi. Oh, je vois ce qui arrive.
On va aller dans le dark side.
Oh.
Merci pour l'effet. Le dark side des virtual bands, alors je vais commencer par celui que tout le monde connaît.
Crazy Frog.
What's going on? Bonne culture, Hicham.
Oh, le viol culturel, quoi.
Ça existe en Arabie Saoudite, ça?
Apparemment, oui. Donc, Crazy Frog, on est sur quelque chose de particulier parce qu'on sait en fait qu'il a été créé par. C'est un morceau de Axel F. Il a créé ce petit personnage, histoire 2. Le problème, c'est que ce petit personnage a eu tellement de succès que ça a fait beaucoup d'émules, qu'on appelle la team Zimbra. Est-ce que ça vous parle, Zimbra?
Oui, c'est pas une boîte qui fait des logiciels pour téléphone, smartphone.
Exactement. Zimbra, vous l'avez tous croisé un jour parce qu'ils essaient de vous vendre des fonds d'écran et des sonneries de téléphone. Il y avait des pubs à la télé, télécharger cette sonnerie en envoyant ça. Et ces pubs pour des sonneries, c'était toujours avec ces espèces d'avatars à la con, genre Crazy Frog. Et donc c'est à eux, grâce à eux qu'on a eu cette chose merveilleuse.
Ah. C'est René Latour, quoi.
C'est René Latour. Je vous épargne la suite, mais il y en a plein d'autres.
Et là, Elias, il flexe pas du tout.
Non, je suis...
Ah, cette chanson, oh mon dieu.
Elle y est dans toutes les langues, en plus. Je suis
dépité parce que je me dis, mais comment on a pu laisser les gens faire ça, en fait ? C'est horrible.
Le pognon, mon ami, le pognon.
Oh là là.
Donc voilà, il existe aussi un dark side des virtual bands. Alors comme je vous expliquais tout à l'heure, les virtual bands c'est assez large, vous pouvez aller chercher plusieurs définitions, vous n'allez pas trouver forcément les mêmes groupes dans cet ordre-là, mais je pense qu'on a à peu près compris l'idée. De ce qu'on en sait en tout cas, pour le cas de Daft Punk typiquement, c'est pas parce qu'on met un masque sur la tête qu'on est un virtual band, mais ça va être plutôt lorsqu'on fait appel à un avatar pour nous représenter partout, que ce soit dans les médias ou autre, une interview de Daft Punk, on n'interviewe pas Daft Punk, on interviewe les musiciens de
Daft
Punk.
J'ai une question, Gorillaz sur scène, ça donne quoi ?
Alors Gorillaz sur scène, c'est extrêmement intéressant, je t'invite à aller voir un jour si t'as l'occasion, puisqu'ils ont fait beaucoup de choses différentes. Ils ont déjà été eux-mêmes sur scène à plusieurs reprises, puisque petit à petit leur personnage s'est un petit peu effacé au profil de Damon Albarn, mais généralement on avait des hologrammes justement sur scène, où on avait juste les rappeurs de Gorillaz qui étaient sur scène avec un écran derrière, on avait des chorales d'enfants, notamment sur le morceau Kids With Guns, qui était, c'était Dirty Harry, où ils avaient fait venir des chorales entières d'enfants, et donc du coup on va essayer de sortir du Dark Side, et je vais vous mettre un petit extrait du nouvel album de Gorillaz pour terminer.
Ouais.
Ça pulse. En effet, comme sur tous les albums de Gorillaz, on va avoir autant de morceaux qu'il y a de genres musicaux, en fait. Et ce sera tout pour moi.
Ah, c'est cool. Eh
ben, c'est top.
Ouais.
Mais du coup, c'est rigolo parce que ouais, la différence qu'on peut faire entre un virtual band et autre chose, en fait, parce qu'il y a plein de chanteurs qui prennent des personnages, etc. C'est bêtement justement le côté purement virtuel où ça va être un avatar technologique.
Exactement, parce que sinon on pourrait penser à David Bowie qui a eu autant de personnages que d'albums. Chaque album de David Bowie n'était pas un virtual band.
Et même beaucoup plus récemment, quelque chose qui parlera au plus jeune ou hype tout du moins d'entre nous, des rappeurs style Lorenzo, ils jouent clairement un rôle. Mm-hmm. Ils en sortent pas en interview ou autre, Stupéflip aussi. C'est pas spécialement des virtual bands pour entendre, même s'ils se présentent jamais en tant qu'eux-mêmes, etc. Il y a toute une histoire derrière, mais c'est quand même la personne qui représente le groupe.
C'est ça, il y a un côté physique, tactile, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le bon adjectif, mais ça me paraît assez clair. En tout cas, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on sait, c'est encore assez vague, donc si vous voulez participer à cette définition, je vous rappelle que l'internet est là pour ça, hein. Vous pouvez mettre votre pierre à l'édifice si vous avez des choses à dire.
Ouais, bah oui, mais carrément, balancez vos virtual bands préférés, on est toujours chaud pour découvrir de nouvelles choses. On a hâte de voir ce nouvel album de Gorillaz.
Il est déjà sorti, pardon. Tu peux déjà... Oui, et oui, on dit Gorillaz, on dit pas Gorillaz.
Oui, mais parce que je t'entends dire Gorillaz depuis tout à l'heure.
Tu dis Gorilla, tu dis pas Gorilla en anglais.
En anglais.
Ok.
More
et
ouais. Nice.
Et c'est pour ça aussi qu'il dit virtual band et pas virtual band.
On enchaîne.
Eh bien, on va enchaîner. Il me semble que Ichouchou nous a préparé un super sujet sur les avions.
Ouais.
Bonjour Hicham.
Bonjour.
Ça va?
Salut.
Ça va.
Très bien.
Allez, fais-nous rêver.
Monsieur Stryker, je n'ai aucune expérience des avions.
Pourquoi il décolle pas ce putain d'avion?
Vous avez remarqué vous aussi.
Surveillez votre altitude, c'est trop irrégulier.
Ah, à la bonne heure. Ce sera l'occasion de reprendre l'avion.
Alors voilà, là il y a les vacances scolaires qui ont commencé, pas que, on n'est pas tous à l'école. C'est la période, là les juilletistes, tout le monde prend ses vacances, et en général, pour ceux qui peuvent se le permettre, ils prennent l'avion. Donc je me suis dit, why not, on va faire un petit truc sur les avions.
Je savais même pas qu'on disait les juilletistes. J'ai toujours dit les aoussiens, mais je savais pas qu'on disait
les voilà. Alors avant de commencer, je vais commencer par quelques chiffres.
4 et 8.
Bravo.
Merci.
Merci.
En 2014, il y a eu 37,4 millions de vols commerciaux qui ont été programmés, ce qui fait en moyenne une moyenne de 103 000 vols par jour.
Donc c'est beaucoup
par jour, c'est énorme. Je sais pas si vous connaissez le logiciel Flight Radar.
Ouais. Ouais.
Il suffit juste de cliquer dessus et puis de dézoomer et de voir tous les vols qu'il y a. Enfin, il y a plein de points jaunes.
Il avait fait ce forme d'application où tu pouvais pointer ta caméra en réalité augmentée vers le ciel et tu voyais les couloirs aériens. C'était assez intéressant.
Les aéroports les plus fréquentés au monde, à votre avis, c'est lesquels ?
LAX.
Non.
Non ?
Melun.
Je dirais peut-être Charles de Gaulle. Hein. Il est pas dans la liste.
On est, je crois, si je me rappelle bien, le 16e ou
17e. Shanghai.
New York,
Hong Kong,
Hong Kong,
Clermont-Ferrand. Non, mon premier, Atlanta.
Mm-hmm.
Donc je trouvais ça bizarre parce que j'ai jamais vu de vol en direction d'Atlanta personnellement.
Bah je pense que tous les gens qui vont à Atlanta prennent un vol en direction d'Atlanta.
Ouais.
Je pense que ça doit être assez spécifique.
Non, ça doit être parce que pour la zone, ça doit être l'aéroport peut-être où c'est le moins cher, où il y a le moins d'escales.
Et tu fais un rebond après vers. Ouais. Mais Atlanta, c'est où, c'est côté est.
Tu fais un rebond. C'est pas comme sur la carte où l'avion il fait ça. En fait, il rebondit pas.
Tu fais le plein et tu repars. Mais ouais, c'est côté est.
Je pense ouais, c'est côté est. Je suis pas
sûr. Ouais, ça doit être ça. Ça doit faire un arrêt. Tu vas après aller à l'ouest, dans l'ouest des US.
Maybe. En deuxième, il y a Pékin.
Ouais, après, ça fait sens.
Il y a Dubaï. Et les deux derniers, ils se battent un
peu. Qui n'est pas en Arabie Saoudite.
Non.
Il y a souvent des escales à Dubaï.
De quoi ?
Il y a souvent des escales.
Bah aujourd'hui, ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Dernière et avant-dernière place, ils sont en train de. Enfin, en quatrième et cinquième plutôt. C'est Tokyo et Chicago qui se battent un peu.
Ok.
Quand, non, vous avez tous déjà pris l'avion ici ?
Oui.
Oui.
Ouais. Vous avez déjà remarqué que pendant les vols de nuit, il n'y a pas lumière.
Ouais.
C'est normal, parce que le soleil est éteint.
Enfin, ouais, parce qu'on est
dans l'avion.
Dans sinon, l'avion, les gens pourraient pas dormir. Enfin,
dans l'avion, il n'y a pas de lumière.
Ouais, elles sont réduites en
ils baissent
cas.
La lumière, ouais.
Mais,
contrairement au TGV où ils font bien chier à laisser la lumière.
J'ai jamais pris de TGV. Donc.
Ah bah écoute. Ouais.
Mais,
privilège de classe.
Hicham, il a un jet privé.
ils éteignent la lumière, enfin ils réduisent la lumière. Bon, je me suis dit, oh, c'est gentil, pense à nous, comme ça on arrive à dormir la nuit. Et en fait, pas du tout.
C'est pour pas être repéré dans le ciel.
Non, pas. Ah. Bah, qu'est-ce que tu racontes?
C'est un point brillant. Les extraterrestres. Discret, fais pas briller.
Non, non, c'est juste pour habituer les yeux en cas d'urgence. Si jamais, genre, il y a un feu dans l'avion, le premier réflexe du pilote, c'est qu'il éteint le moteur.
Ouais.
Pas et donc, il n'y a pas de lumière. Donc, il n'y a pas de lumière, et comme ça, les yeux s'y habituent en cas de problème, enfin, en cas d'évacuation. Mm-hmm. Non, théoriquement, on doit évacuer un avion en 90 secondes.
Même à 2000 pieds d'eau ?
Non, mais le temps qui descend et tout.
Ah oui, ouais, parce que sinon, genre, on sort.
Si jamais, non, mais bah, c'est vraiment le temps théorique. Moi, je trouve ça pas beaucoup. 90 secondes. Parce que, ouais, dans un gros avion.
Bah, déjà, on met 4 heures pour rentrer dedans.
Mais c'est ça.
Mais, comme quoi, ils se foutent vraiment de notre gueule.
Ils essayent d'éviter le temps que les yeux s'habituent.
Ah, pour ne pas être aveuglé.
Ouais, voilà.
Non, pas aveuglé, c'est quand tu contraire. Sors, il fait nuit.
Oui, enfin, dans l'autre sens, pas rien voir. Quoi.
Pour que tes pupilles se dilatent et qu'il y ait... Enfin bref, voilà. Il y a un truc qui fait peur un peu à tout le monde, c'est les turbulences. Mm-hmm. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai beau prendre...
Bah, dropper de 30 mètres quand t'es... oui, c'est pas
pas 30 mètres quand même.
C'est beaucoup, c'est vrai.
Bah, quand l'avion se met à battre des ailes, tu dis que c'est pas bon signe, quoi.
Donc il y a trois types de turbulences différentes. La première, c'est la thermique. C'est quand il y a une différence de température entre l'avion et les nuages. Donc c'est typiquement quand on traverse un gros nuage. Ça crée une sorte de cercle au niveau de l'avion. Et du coup, bah, l'avion n'arrive pas à stabiliser. Donc ça crée des petites perturbations. La deuxième, c'est la turbulence mécanique. C'est en gros quand, typiquement quand un avion est derrière une montagne. Le vent qui passe.
Qui se la prend plein de gueule, là. Ça bouge enfin, un peu, quoi.
Devant une montagne plutôt. Le vent qui passe, il change de direction et c'est un peu traître, mais bon, les pilotes, ils l'évitent tout simplement. Et la dernière, c'est les turbulences dues au cisaillement du vent. C'est en gros, dans l'air, en altitude, il y a des sortes d'autoroutes.
De l'air.
De l'air pour les avions. Mm-hmm. C'est le vent qui part à grande vitesse et le pilote en profite pour rentrer dedans, histoire de brûler moins, ouais, de brûler moins de carburant. Voilà.
Okay.
Donc, ouais, il n'y a pas eu de. Enfin, on a tous peur des turbulences, mais il n'y a jamais eu d'accident.
Jamais.
Enfin, à ma connaissance.
Jamais.
À ma connaissance, il n'y en a jamais eu.
À ma connaissance, j'ai pris l'avion 10 fois, j'ai mis d'accident.
Je suis encore là pour vous en parler. Aujourd'hui, dans les avions, ils ont plein de. Le petit
parachute.
Système. Non, non, ils ont plein des trucs électroniques, genre des radars météorologiques, pour essayer d'éviter justement de passer dans ces zones-là. Il y a aussi la foudre qui peut frapper un avion. Donc je sais pas si vous en avez vu déjà.
Ah, ça m'est jamais arrivé.
Je me suis jamais pris la foudre depuis l'intérieur d'un avion.
Je pense que je me serais fait dessus, mais quelque chose de violent.
Il y a moyen, ouais. Mais apparemment, ça arrive une à deux fois par an.
Et je trouvais que c'était par vol, faut putain.
Non, enfin pour un avion, ça arrive une à deux fois par an.
À part pour chaque avion.
Ouais. Par avion.
Ouais. Ah ouais.
Attends,
ouais, c'est
mais énorme. Tu le sais quand t'es dans ton avion que la foudre vient de te toucher.
Apparemment, oui. Apparemment, oui. Tu sens, tu vois déjà l'éclair. Tu te dis ah putain.
T'as les cheveux comme ça.
T'as le soleil s'est levé d'un coup puis s'est recouché direct, hein, lundi matin quoi.
Mais l'avion est construit pour résister justement à la foudre. Ils ont un petit tampon résistant à la foudre.
Ah cool.
Le truc le plus grave qui puisse arriver, c'est créer la panique justement dans le vol.
Mmh.
Et qu'il y a un mouvement de panique et que l'équipage n'arrive pas à gérer tout le monde. Et bon, voilà quoi.
Ah, parce qu'il y a, quoi, il y a 6-7 personnes de l'équipage, peut-être une petite dizaine, s'il y a 300 passagers.
Ah, mais si tout le monde commence à gueuler, à crier et tout, tout le monde qui. Ouais, ça, ça peut partir en couille, quoi. Mais il y a quand même eu des incidents graves.
Ah, j'en ai.
La dernière qui s'est passée, c'était en 2014. C'est un petit avion qui s'est reçu une foudre, la foudre, et il s'est écrasé en Indonésie. Il y a eu 4 morts, donc ça va. C'est pas...
Ah bah ça,
ça va.
Ils étaient deux dans l'avion.
Ça ouais, va, d'accord. C'est bien. Non mais c'est bien, t'es optimiste. C'est un biplace. Il y a que 4 morts.
Alors que moi j'ai connu un avion où il y avait des serpents, ça s'est moins bien passé.
Sérieux?
Mais ah oui, j'ai oublié que t'as vu aucun film. Les serpents dans l'avion avec Samuel L. Jackson. Ah,
film très pourri d'ailleurs.
C'est... Non, c'est fou.
Non, j'ai pas du tout aimé. Bon, bref.
Donc d'où l'importance d'éteindre ton téléphone.
Non.
Pas en rajouter une couche là, aussi les...
Non, pas du tout, apparemment. Enfin, à l'époque.
Tu l'as cru quand on l'a dit que le Bluetooth ça attirait la foudre.
Bah, du moment que l'avion passe pas sous un arbre, c'est bon.
Mais
nickel,
ils disent
quoi.
Que maintenant c'est bon, c'est pas grave en fait,
ouais,
le téléphone.
Ça
mais
crée
il continue...
des petites interférences pour que le pilote puisse communiquer avec la tour de contrôle. Mais, c'est
mais
pas
t'ajoutes
ça qui...
un éclair là-dessus, t'es mal.
Ouais, ça, ouais. Peut-être. Et le plus grave qui s'est passé à cause de la foudre, c'est en 1963, un Boeing 707 avait explosé et a causé 160 morts.
Donc, c'est la foudre qui l'a fait exploser. Ouais, il y avait une fuite d'essence ou enfin, de kérosène.
Je sais pas. Parce qu'en 1963.
J'étais pas là.
Voilà. Alors, je vais vous parler aussi d'un autre truc qui s'appelle le risque aviaire. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Ouais, quand tu manges du poulet que t'as pas bien fait.
Non. Non. Bah, aviaire, c'est les oiseaux.
Bah, ouais.
Est-ce que vous avez vu le film Sully?
Non.
Sully, alors non.
Avec Tom Hanks, sur le pilote américain qui...
s'est pris une cigogne dans le cockpit.
Des cigognes. Et il a dû atterrir sur le fleuve de Hudson. C'était en 2009. Ça vous dit rien?
Si, si, pas du tout.
C'est un film vraiment super bien après.
Tom Hanks, c'est mon
idole. Tom Hanks, c'est mon idole, donc tout ce qu'il fait, c'est bien. Mais,
Tu veux un chocolat?
Mais ouais, ça me fait penser aussi à Mythbusters qui avait fait une expérience où ils avaient testé la résistance des turbines des avions aux oiseaux en fait. Et s'étaient rendu compte que à la base ils l'avaient fait avec des poulets crus, ce qui éclatait totalement les pales, mais c'était pas cohérent parce que dans l'air ils sont forcément très froids, même s'il n'y a pas d'oiseaux à cette hauteur. Mais voilà, ils avaient fait des tests de résistance comme ça et c'était assez rigolo.
Donc il y a des mecs qui sont payés pour balancer des poulets crus.
Non, mais
des
mecs dans l'aviation, parce que t'imagines, t'as l'avion qui vole, il se prend un pigeon.
C'est excellent comme
poulet. Ouais, il faut le prendre en compte.
J'ai fait un master en mécanique et il y a une. On a eu un cours, c'était l'aérodynamique. Et le prof nous avait passé un petit PowerPoint. C'était un avion, une simulation d'un avion avec un flux d'air. Et ils ont juste balancé un poulet. Et tu vois le poulet qui s'écrase contre le truc et ils étudient ça comme ça, quoi.
Ah, puis il y en a qui ont des TP plus sympas que les autres.
Ouais, c'est bien, c'est sympa.
Et mais heureusement, il faut le faire parce que regarde avec le Concorde, c'est pris un poulet qui passait par là et hop, plus de Concorde. Hein. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire il y a quelques années.
C'était pas vraiment un poulet, mais bon.
Oui, une cigogne, c'est pareil, une girafe.
Non plus.
Pas là.
Une girafe, oui. Il volait quand même très bas.
Ah non, c'était un truc sur la piste d'atterrissage pour le Concorde. Je sais, j'ai une quitte à blague, mais bon, voilà. Ne touche pas aux avions.
Ne touche pas aux avions.
Ouais, c'est ma passion. C'est ma passion. Mais le risque d'un accident fatal à cause de la grippe aviaire, non, du risque aviaire, ça arrive une fois tous les milliards d'heures de vol. Donc ça arrive très rarement.
Ceci dit, ouais, vu le nombre de vols qu'il y a par an, ça doit arriver plusieurs fois par an, non?
Des milliards, je pense pas.
Puisque
parce que...
tu as dit que tous les jours il y avait 103
après,
000 vols.
Un incident, c'est pas forcément un crash d'avion.
Qui a un problème derrière.
Le mec qui doit nettoyer les turbines. Oh putain, chier. Alors tu coupes le moteur, hein, tu veux là, parce que là je mets la main dedans.
Je dirais plutôt, t'imagines le mec qui doit faire ton eulogie.
Michel, mort par collision avec un poulet.
65% des collisions causent peu ou pas de dégâts à cause de ça. C'est quand même 35%. En gros, ce qui peut causer un problème, c'est que justement, quand tu atterris ou tu décolles, tu vas pas à une vitesse folle. Et si tu te prends un truc dans le moteur, le moteur est un peu niqué. Et tu perds la propulsion, enfin, tu vas moins vite. Et du coup, tu risques de te crasher directement derrière. Les personnes qui s'occupent des aéroports, ils ont trouvé des petits trucs pour justement éviter ça. Il y a la chasse réglementée.
J'en étais sûr, j'allais faire une blague avec le poule.
Il y a des alarmes pour les faire chier.
Okay. Avec le bruit.
Est-ce qu'ils mettent des CD sur les avions accrochés à
des épouvantails sur les ailes, ouais, j'y pensais.
Mais moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'on élève carrément des prédateurs naturels.
Oui, des faucons, non?
Ouais. Et qui sont justement élevés.
Mais on
ne
peut pas se prendre les faucons.
Pardon?
On ne peut pas se prendre les faucons.
Non, je pense que justement, ils sont éduqués pour ça. Enfin, ils sont...
Alors, tu évites les gros oiseaux, là, le truc en métal, tu touches pas.
On change d'un peu de sujet. On a tous entendu ça quand on prenait l'avion. En cas de dépression.
Dépressurisation.
En cas de dépressurisation de la cabine, un masque à oxygène tombera automatiquement devant vous. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène. Appliquez-le sur votre visage avant d'aider vos voisins si besoin. On l'a tous entendu, on s'est tous demandé, ça arrive jamais et tout, mais en fait, c'est quand il y a une différence de pression dans l'avion, on risque de s'évanouir, et enfin, voilà, c'est jamais bon signe, quoi.
Raréfaction de l'oxygène.
De quoi ?
Raréfaction, c'était ouais, parce que, une fois.
Il avait envie de dire raréfaction, en fait.
La distance de croisière d'un avion, les avions qu'on a aujourd'hui, c'est à peu près 10 km. Donc, à 10 km, il n'y a pas vraiment de... Ouais. L'oxygène pour tous les passagers. À votre avis, il y a combien, enfin, c'est quoi l'autonomie de ces masques-là?
12 heures.
3 minutes.
Ouais, plus de 10 minutes, j'espère.
Moi, je dis 12 heures.
12 heures, peut-être pas.
Moi, je dis une demi-heure.
Une heure? Une ou deux heures?
C'est un quart d'heure.
J'ai gagné. Ouais. Atterri, bordel, descend!
Non, c'est vraiment un quart d'heure parce que, en fait, c'est le temps. Tout a été calculé, donc rassurez-vous, hein, c'est pas juste pour nous faire chier. C'est le temps. Ouais. Que prend un avion de descendre de 10 km à 3 km, c'est là où l'air redevient
un peu respirable. Et là, il ouvre les fenêtres.
C'est ça, on ouvre les hublots.
Et on va finir cette petite rubrique par des statistiques pas très rassurantes. Après, vous pourrez choisir vos vols en fonction des avions. Des petites statistiques sur les crashs d'avions.
Parce que nous, on prend toujours les moins chers, hein, je pense.
Mmh. Ouais, bah écoute, tu y penseras juste avant de prendre l'avion. Tu liras la petite carte.
Ilias, je retourne plus au Maroc avec toi.
Ah bah, l'avion à hélice.
Avec ton vieux coucou. Merci, hein.
Donc aujourd'hui, il y a à peu près 55% des avions qui sont des Boeing et l'autre 45%, c'est les Airbus. Voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée, même si aujourd'hui, la tendance à...
Ah, attends, mais ça, c'est avions commerciaux.
Ouais, commerciaux, ouais.
Après,
c'est
t'as les cargos et tout ça. Pas mal d'avions militaires, etc.
Ouais, il y a les Zeppelins.
Tout ça, j'en parle pas. Il y a eu 83 vols d'Airbus qui se sont scratchés.
Mm-hmm. Depuis
par an?
Depuis les années 70.
Ok.
Okay.
Ah, ça va. Par an.
Ouais. Et pour les vols Boeing, il y a eu 233 vols.
Ouh.
Donc ça fait 74%.
Je vois déjà le mec avec son PowerPoint. Bon, les gars, c'est la merde.
Airbus Air, cocorico.
Mais il faut se rassurer parce que le nombre d'accidents s'est divisé par 350 en 60 ans. Donc
Cool.
Aujourd'hui, on a fait des progrès.
Ah. Bill. Merci, Capitaine Tom Hanks.
Eh ben nickel. Eh ben maintenant, on va passer à Camille qui va nous faire un magnifique sujet sur le chamanisme.
Et on ne sait pas du tout à quoi s'attendre.
Alors, le chamanisme, d'où ça vient? En fait, il n'y a pas d'origine, ni de date, ni de lieu précis. C'est un peu comme si on demandait à Camille l'origine de la prostitution. Ça a tout le temps existé, ça n'a jamais commencé à un certain moment.
C'est vrai qu'elle nous a pas dit qui était la première pute.
Exactement, on sait, Lucie. Ouais. Toutes les cultures du monde, en fait, ont à un moment développé du chamanisme. C'est pas une religion, c'est pas un dogme, c'est pas une secte. Rapport au premier podcast, deuxième podcast.
Troisième
podcast.
Manqué.
Oups. Les endroits les plus connus où il y a eu du chamanisme, c'est la Sibérie, l'Asie centrale, l'Asie du...
Sibérie.
Mmh. Oui.
Ah, avec les Inuits et tout.
Non.
Les Inuits de Sibérie.
Non, non. Non, mauvaise zone glaciaire, pardon.
L'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Alors, c'est quoi en fait un chaman? Alors, c'est mort de rire.
Ilias, intéresse-toi.
Mais je
chaman, ça vient du mot saman en fait en sibérien.
Saman?
Oui.
D'accord.
Et ça veut dire celui qui possède la connaissance. En fait, le chaman, c'est un peu le guérisseur du village, le prêtre, le coach. Le psy, le guide spirituel aussi. Mm-hmm. C'est un peu celui à qui tu viens poser tes questions. C'est un peu le doctissimo
le grand sage.
Et là, je viens de comparer. C'est
quoi.
Ça, je viens de comparer. Chamanisme et
c'est
doctissimo.
C'est le grand schtroumpf,
quoi. Finalement. J'espère que je n'ai pas énervé les esprits. En fait, le chaman, il fait le lien entre notre monde et celui des esprits. Lorsqu'on contrarie les esprits, ils vont nous envoyer des alarmes sous forme de problèmes. Par exemple, une maladie, on va se casser une jambe, on va avoir un accident. Et le chaman, en fait, il intervient pour savoir la cause, la raison de ce problème.
En fait, ils nous soumettent à des épreuves un petit peu et...
Non.
Non, j'ai pas compris.
Moi, j'avais posé une question. Est-ce qu'il y a un rapport avec le karma, du coup? Le fait d'avoir fait quelque chose de pas forcément bien, on le paye...
Je pense, ouais. Enfin, ça, c'est... Ça n'engage que moi.
Je sais pas s'il y a un lien entre le chamanisme et le karma.
Ouais, le karma, ça existe un petit peu dans toutes les religions. C'est pas appelé pareil, mais oui.
D'accord.
Ça, quand tu as énervé les esprits, je pense que oui, c'est quand tu as fait quelque chose de pas bien. Voilà. Et comment, en fait, il fait concrètement le chaman pour aller voir les esprits, vu que Fried capte pas encore dans le monde des esprits?
En effet.
Le chaman, il va faire un voyage chamanique pour aller leur parler. Alors, le voyage chamanique, c'est un voyage spirituel de l'âme dans les autres mondes à la rencontre des esprits. Voilà, ça c'est la définition. 80% des voyages chamaniques se font au tambour partout dans le monde. Sinon, vous connaissez peut-être les voyages chamaniques avec la Yoweshka. C'est souvent en Amérique latine. C'est souvent à la mode en ce moment. On en parle pas mal.
C'est quoi ?
C'est les champs.
C'est une drogue.
Ah non,
fait,
d'accord.
Voilà, donc ça c'est interdit en France. Tu peux faire par les chants, tu peux faire par la danse, par le jeûne aussi. Je sais plus dans quelle tribu ils vont jeûner pendant 21.
Musulmans,
dans l'islam.
Faire en sortir là,
la tribu
de
l'islam.
C'est ça.
Pendant un mois.
Et en fait, l'avantage du tambour, c'est que c'est rapide, c'est efficace et on revient vite de la transe. Avec le battement du tambour, on atteint un état de transe, donc c'est un état modifié de conscience. Je vais vous lire la définition de l'état de transe. C'est un peu comme l'état d'hypnose, en fait.
Okay.
Enfin, l'état d'hypnose est aussi un état modifié de conscience,
okay.
Si ça peut éclairer. État permettant une expansion de conscience, un élargissement de notre champ de perception et un retraitement de l'information au niveau neuronal. Perte de notion du temps, diminution du seuil de la douleur, plus de force, des visions, accès à d'autres perceptions. Ça, c'est des exemples pour dire quand on est en état de transe. Mais on est en état de transe souvent dans la journée. Ça vous arrive
au boulot.
Voilà.
En fait, ça peut être plusieurs. Ça peut être à la fois le fait d'être ultra détendu et un peu, un peu ailleurs, comme ultra concentré et
juste
plus
ouais.
focus.
Oui, dans les mêmes principes que méditation, le fait de faire une tâche répétitive ou habituelle. Genre, je sais que moi, quand je cuisine, je suis en moitié en train de méditer.
Mais c'est
en
un
même
état
temps.
Voilà, c'est un état de transe, un état méditatif. Hein. Après, bon, je vous fais une petite partie un peu théorique. Les ondes du cerveau, elles ont tendance à se caler sur ce qu'elles perçoivent. Donc avec un électroencéphalogramme, on enregistre plusieurs activités neuronales sous forme d'ondes, les ondes gamma, bêta, alpha, theta, qui caractérisent chacune un état différent. Et en fait, il y a une journaliste, Corinne Sombrin, qui a été reconnue comme chamane, une journaliste à la BBC, elle a écrit 4 bouquins sur ses initiations chez les chamanes, et elle a été étudiée par les neurosciences pendant ces états de transe chamaniques. Et en fait, pendant son EEG, en état de transe, elle avait des ondes similaires à des bipolaires, à des schizophrènes maniaco-dépressifs.
Des bipolaires, c'est
j'ai
quoi.
Juste une petite question
ouais,
aussi.
C'est assez
tu dis qu'elle a été reconnue en tant que chamane par donc, ses pairs chamanes.
Par des... Ouais. Elle a été à une conférence de chamanes. Enfin non, c'était pas une conférence. Elle a été dans un cercle de tambour chamanique. Et en fait, les chamanes sibériens l'ont reconnue comme chamane. Et un autre chaman d'Amérique latine l'a reconnue également comme chamane. Donc elle a fait plusieurs initiations.
Mais parce qu'elle était très douée, parce qu'ils sentaient quelque
ils
chose.
Non, non, ils l'ont vu. Ouais, ils ont vu.
Ils ont senti quelque chose en elle. Et,
ouais.
Ok.
Ces bouquins sont super intéressants. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au chamanisme. C'est hyper pédagogique et elle écrit très, très bien. Voilà. Et en fait, donc, pendant son état de transe chamanique, elle a des ondes similaires à des bipolaires, schizo, etc. Et lorsqu'elle revient à l'état normal, elle a les ondes normales. Son cerveau redevient normal. Donc,
d'accord.
Les médecins sont... Voilà. L'étudie pour ça, c'est assez ouf.
Donc, de même manière qu'on va avoir ces graphiques quand les personnes prennent du LSD, on voit certaines zones qui s'activent.
Voilà.
Ok.
Et pour la petite anecdote, il est dit que dans certaines cultures, que les gens qui souffrent justement de maladies mentales sont en fait des chamans qui s'ignorent.
Oh, pas tous, hein. toi, le pédophile là-bas, toi, tu es un chaman. Voilà.
On arrive à ma frontière, là.
Oui.
Ouais, je suis un chaman qui s'ignore, laisse-moi.
Voilà, c'était la petite anecdote.
Mais qui dit ça ?
C'est dans des cultures.
D'accord.
J'ai lu ça dans plusieurs... plusieurs bouquins. C'est pas qui dit ça, il n'y a pas deux personnes qui disent ça, en fait.
C'est pas une grande loi, c'est...
C'est pas un dogme...
Okay.
Voilà. Et en fait, lorsque le rythme du tambour dépasse les 180 pulsions par minute, il induit des ondes cérébrales θ, entre 4 et 7 Hz. Et en fait, c'est les ondes de d'état de méditation profonde, voilà, qui permettent d'entrer en état de transe chamanique. Selon les Amérindiens, le son du tambour nous relie au cœur de la Terre-Mère.
Gaïa.
Et exactement. Il a par ailleurs été mesuré que la fréquence de résonance magnétique de la Terre, résonance de Schumann, 7,8 Hz, est très proche de celle des ondes cérébrales produites dans le cerveau en état de conscience chamanique.
Mmh,
voilà.
C'est profond.
C'est profond. Donc comment ça se passe, un voyage chamanique ? Eh bien en fait, tout d'abord, on se met tous tout nus et on se caresse.
Ouh.
Non.
Ça a l'air chouette. Ah merde.
Tout le monde a relevé la tête.
Je vais annuler ma séance, mais ça avait l'air sympa.
Voilà, en fait, on était une dizaine. Donc j'ai testé un cercle de tambour chamanique. On
Habillé.
Était... Non, j'étais nue.
Okay.
On est une dizaine en cercle et on nous explique tout d'abord la cartographie du monde chamanique. Il y a le monde du bas où on rencontre notre animal totem, nos animaux alliés. C'est là où on va prendre de la force, Voilà, ça c'est le monde qu'on va explorer en tant que débutant.
Et c'est quoi toi ton animal ?
Attends, c'est personnel, Hicham.
Ouais, Hicham, okay. Quand même.
Ah, le mais, fuck. Ah, c'est sympa. Donc, c'est ce que tu fais au tout début, alors, quand tu t'inities.
Voilà, elle nous emmène dans le monde du bas, nous dit d'aller dans le monde du bas.
Mais ça veut dire qu'il y a une gradation dans les différents mondes.
Il y a une cartographie.
Premier est facile, ouais. Mais ils sont tous empilés,
en fait, c'est pas qu'il est plus facile, c'est que c'est mieux d'aller vers le bas, parce que c'est plus ancré, plutôt que partir direct en haut et d'accord. Jamais redescendre.
D'accord, enfin, mais, c'est donc, mais ils sont bien empilés les uns sur les autres avec un.
Ah, ça, je ne sais pas. Dans l'espace, réellement ?
Non, mais pour savoir s'il y a un niveau de enfin, s'il y a une notion de profondeur entre les différents espaces, ou ils sont juste différents, et puis c'est tout.
Alors, je pense qu'en fait, plus tu vas loin, enfin, tu démarres par le bas, et plus tu vas loin, comme je disais, plus c'est dur d'en revenir, en fait.
Pour moi, il y en a un en bas, il y a le monde du milieu, c'est le versant invisible de notre monde, donc c'est notre monde, mais avec des esprits qui interviennent, et le monde du haut. Et le monde du haut, c'est là où on rencontre nos guides spirituels, c'est là où on peut recevoir un soin. Et là, on peut poser des questions, mais des questions philosophiques d'ordre spirituel.
Où est-ce que j'ai foutu mes clés ?
Exactement. Ça, tu vas le poser. Tu poses cette question-là dans le monde du bas. Tu la poses pas dans le monde du haut.
Sinon, on te renvoie chez ta
mère. Dans le monde du haut, tu prends cher, mon gars.
C'est ça. Le premier on a fait deux voyages chamaniques. Le premier, c'était le thème de l'exploration du monde du bas. Donc, on est tous debout, on joue du tambour tous ensemble. Je vois Elias qui rigole.
il n'arrive pas à passer outre
c'est
le
ça,
on joue
pas.
Du tambour tous ensemble.
C'est ça. Et pourtant.
Boum boum, tout ça, bah voilà.
Exactement.
Double croche, les mecs, double croche.
On joue du tambour ensemble et puis on s'allonge, en fait, au signal. Donc la prof, elle, continue de jouer du tambour.
Jacques a dit,
tu t'allonges. C'est un signal sonore. Du coup, là, tu t'allonges sur ton tapis. Et là, moi, j'ai eu l'impression de tomber, comme dans Alice au Pays des Merveilles, quand tu tombes dans le trou. Ça m'a fait vraiment bizarre, j'ai eu un peu peur. Et du coup, je suis tombée, ça dure longtemps. Bon, alors, elle ne nous dit pas combien de temps ça dure au début, elle nous le dit après. Et en fait, ça dure 12 minutes. Elle joue du tambour pendant 12 minutes. Le tambour qui pèse plusieurs kilos. Mmh. Donc la nana joue du tambour. C'est assez impressionnant. Et puis au bout d'un moment, j'ai aperçu juste une cascade avec un papillon. Et là, il fallait remonter, il y avait un signal. Et du coup, hop, je suis remontée. Après, t'es un peu stone. Voilà. Et ensuite, le deuxième voyage, c'était rencontre avec l'animal totem. Donc là, j'avais l'impression de tomber, au moment de m'allonger, j'ai l'impression de tomber plus vite. Et puis, j'ai rencontré mon animal totem.
Alors, moi, je suis assez curieux. Quand tu parles de j'ai rencontré, j'ai vu un papillon, machin.
Ouais.
T'expérimentes ça comment ? C'est de l'hallucination. Enfin, c'est pas de l'hallucination visuelle, j'imagine.
Non.
C'est plus dans le ressenti, comme quand on ferme les yeux et qu'on pense à quelque chose.
Ouais. Finalement. Moi, j'ai ressenti ça comme ça. Il y a beaucoup de gens qui étaient là, qui lui ont demandé, mais comment on sait si c'est pas nous qui imaginons et qui pensons à ça ?
Ça l'est un peu dans l'absolu.
Sa question, en fait, elle te dit, est-ce que toi, t'as voulu avoir ça, voir ça ? Et bah non, il y avait des choses assez improbables.
Oui, c'est comme le rêve, finalement. Tu décides
pas
de ton rêve, c'est
vrai. Après, moi, mon ressenti, c'est qu'en fait, oui, chacun a son monde à soi, chacun a son ressenti personnel. Parce qu'en fait, c'est quoi le chamanisme ? Finalement, le chaman, c'est un guérisseur, un guide. Et il vient t'aider à chercher des questions, mais au final, qui sont en toi, que tu pourrais, toi, trouver peut-être tout seul. C'est juste une aide, un état de transe, comme la méditation.
Avec son expérience, il va t'aider à atteindre cet état, etc.
Voilà, et à poser tes questions, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, etc. C'est juste, pour moi, c'est juste quelque chose qui est en soi.
Alors, est-ce que la différence pour toi, c'est parce que la méditation, c'est quelque chose qui peut se pratiquer vraiment tout seul dans son coin ? Le chamanisme, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir cette ronde, cette
non, à la fin, justement, je voulais y venir, elle nous donne un enregistrement, elle nous envoie des enregistrements exprès pour refaire la transe chez soi.
Parce que moi, ça m'a toujours perturbé, cette histoire d'enregistrement, de même de vidéos YouTube où tu vas avoir des sons en boucle, c'est que les fréquences compressées qui sont passées sur YouTube, ce ne sont pas du tout les mêmes que les fréquences que tu entends, même si elles paraissent les mêmes, ça n'a rien à voir.
Ouais.
Et du coup, j'ai toujours trouvé ça un peu curieux qu'on parle de, voilà, c'est une fréquence qui t'envoie, du coup, quand tu l'écoutes dans un casque, c'est plus la même fréquence.
C'est pour ça qu'il y a des cercles de tambour où tu peux y aller, et après, tu peux le refaire chez toi. Comme la méditation, c'est beaucoup plus sympa d'aller faire ta médite avec un groupe que quand t'es tout seul chez toi. C'est pas du tout la même ambiance, la même énergie.
Ça dépend des personnes, je pense, non ?
Il y en a qui se retrouvent au milieu de la nature avec leur pauvre tam-tam et puis ils font leur voyage comme des grands.
Exactement.
Et d'ailleurs,
mais tu penses pas que tu puisses faire le truc en jouant toi-même du tam-tam, ça me paraît compliqué.
Je vais poser la question parce qu'elle, elle jouait du tam-tam pendant que vous étiez en transe.
Elle jouait du tambour, on en joue tous ensemble. Ensuite, elle fait un signal sonore, nous on s'allonge et elle, elle continue.
Et est-ce que tu peux faire ta transe toute seule? Genre, tu fais le bruit au tambour tout seul pour te mettre en état de transe?
Ah
et
oui,
après...
tu peux, bien sûr, il y en a qui le font tout seul.
Donc tu peux cultiver ton état de transe sans avoir le bruit derrière.
Ouais, tu peux. Ben, en fait, Corinne Sombrin, du coup, ce qu'elle raconte, c'est qu'au début, elle, le chaman jouait du tambour, elle rentre en état de transe, puis elle a appris à jouer du tambour, mais elle a fait ça sur 8 ans pour devenir chaman. Et puis après, elle joue du tambour. Et après, elle a réussi à se mettre en état de transe pour les... quand elle a été faire ses EEG, pardon, électroencéphalogramme. Elle a dû se mettre en état de transe toute seule et elle a appris à le faire toute seule sans tambour. Mais ça a été des années d'entraînement.
Donc pour les débutants, tu mets une pédale de répétition, quoi.
Le côté pratique.
Double pédale de batterie.
J'imagine c'est un peu comme certains moines, etc., qui arrivent à se mettre justement dans ces...
avec les chants, grégoriens, c'est ça aussi, c'est des états de transe, états méditatifs, ouais.
Et je fais une petite virgule si ça intéresse, parce que c'est quand même un petit peu vague, c'est dur à imaginer.
Ouais.
Tu parlais tout à l'heure de
l'ayahuasca. La drogue.
L'ayahuasca, c'est ça. En fait, c'est aussi le nom d'un documentaire qui a été fait, qui parle de Yann Kounen. Je ne sais pas si vous voyez qui est Yann Kounen. C'est un réalisateur qui a fait notamment 99 francs, Doberman, des trucs comme ça. Et en fait, il s'est beaucoup intéressé à ça. Il a fait un voyage chamanique, en fait. Et si vous avez vu le film Burberry, justement, il y a beaucoup de références au chamanisme dedans. Et il y a un documentaire sur son voyage qu'il a fait là-bas. Et c'est assez poignant comme documentaire, parce qu'ils ont reconstitué un petit peu ce qu'il a expérimenté. Ouais. Ils ont essayé de le reconstituer en 3D avec une équipe d'artistes, où il racontait un petit peu ce qu'il avait vu. Et du coup, le documentaire, c'est un mélange d'interviews, d'immersion dans ce truc qu'il a fait, et de tentatives de reconstitution, donc c'est un peu étrange, c'est pas très digeste. Mais c'est assez intéressant, si vous y intéressez.
Après, l'ayahuasca, il faut quand même savoir qu'il y a des effets hyper violents, t'as diarrhées en continu pendant des jours.
Ils en parlent beaucoup dans le documentaire. Il y a aussi, quand on voit la gueule de Yann Kounen quand il est revenu, on voit que ça fait pas que du bien.
Mais en fait, Corinne, du coup, elle a écrit 4 bouquins, et elle explique bien à chaque fois. Mais elle, vu qu'elle était... apparemment véritablement chamane, elle n'a pas eu tous ces effets-là. Mais tous les touristes qui vont en Amérique latine et qui font ces voyages chamaniques pour le fun, ils en chient au sens propre, sans se figurer.
Blague de caca.
J'ai une petite question, parce que cet espace... avant de poser ma question, quelle est son utilité, définition, mettons, le premier espace que tu vas visiter?
Le premier monde, le monde du bas, c'est plutôt le monde... celui où tu rencontres tes animaux alliés, ton animal totem. Tu viens prendre de la force. Tu peux demander à venir prendre de la force et poser des questions d'ordre... Pas matériel le mot, mais...
Ouais, c'est simple.
Mais
est-ce que c'est censé représenter, pas ton esprit, mais ton environnement à toi, etc.
Mais, en fait, j'ai beaucoup lu, justement, dessus, et je me suis demandé... parce que l'animal totem, en soi, est censé, quelque part, te représenter. Mais j'ai pas trouvé de réponse précise. C'est pour ça que j'ai dit, selon moi... c'est rattaché à toi, à ta personnalité, à ce que t'as besoin de trouver, etc. Et que chacun a son... De toute façon, chacun a son monde, c'est sûr.
Parce que justement, ce que je me demandais, c'est si t'es dans un état d'esprit, on va dire, relativement négatif, si t'es pas bien, etc., est-ce que ce monde peut te mettre justement mal à l'aise? Est-ce que ça peut être le chaos dedans et...
Ah bah, il y avait des gens qui avaient un désert, qui avaient du vent, du froid. Moi, j'avais une cascade avec un papillon.
J'imagine que c'est les mêmes personnes qui font des cauchemars réguliers.
Mais elle t'explique c'était exploration, mais que ton monde est composé de plein de mondes. Tu vagues d'un monde à l'autre.
Et puis ça peut évoluer, j'imagine, suivant ton état d'esprit, justement, si ça va mieux, tu vas voir, dans ce monde-là, ça...
Peut-être.
Et ce que je trouve assez marrant, c'est que c'est, en fait, ce qui fait sourire dans le chamis, c'est l'image, en fait, l'imagerie qu'il y a derrière.
Les
alors que finalement, c'est quelque chose de tangible. On en parle, le rapport avec le rêve, le cauchemar, la méditation, machin... C'est juste le folklore qu'il y a autour qui est difficile à intégrer.
Oui, les plumes, la flûte, le tambour et puis les
mais là,
animaux,
quand t'arrives, personne et il n'y a pas de plumes, il n'y a pas de... Tout le monde est en jean.
C'est normal, je crois que c'est à poil. J'ai rien suivi.
Mais c'est tout un folklore qui est difficile d'accès. C'est difficile d'accès. Moi, je me dis pas, tiens,
je pense que
vais
c'est
aller...
un peu comme les guérisseurs. Si le mec, il se ramène avec plein de trucs...
De la sauge, non, mais...
C'est ça. Enfin, il n'y a pas besoin d'accessoires, en fait.
Après, il faut y croire aussi, non ? C'est un peu...
Bien sûr.
Oui, si t'arrives complètement sceptique, je pense que... Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même assez violent.
Ça peut être une bonne expérience aussi.
Tu vois, la méditation, c'est marrant, il y a toute une... quelque chose qui se met en place avec des applications pour t'apprendre à méditer,
machin. Mais là, c'est pareil, du coup, c'est pas violent. Elle t'explique, elle te met... T'as juste le tambour, donc c'est pas violent.
Mais c'est plutôt comment dire ?
La croyance,
l'image que ça a transmis, si tu veux, la méditation, il y a encore 10 ans, parce qu'il y a eu toute la période hippie à fond là-dedans, mais il y a encore, on va dire, les baby-boomers, ils ont du mal, enfin, ont beaucoup de mal avec ça. Et toutes ces choses-là, ça a permis de la re-rendre publique, on va dire, montrable, décente. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui vont méditer dans le métro, tu vas lire, je sais pas, mademoiselle.com, tu vas avoir des gens qui disent, Bah, j'ai fait mon heure de méditation ce matin, ça choque personne.
Moi, je la fais dans le métro.
Je comprends. Moi, j'appelle ça dormir. Hein,
j'ai des problèmes. Tu fais des passagers avec ton tam-tam aussi ou...
Mais c'est là, c'est tout ce folklore qui rend, je trouve, le tambour, truc beaucoup moins accessible, alors que finalement, c'est assez similaire. Quoi.
Moi, je suis complètement d'accord. Mais...
Et alors, du coup, c'est comment en haut?
J'ai pas été en haut. Parce que le premier voyage, c'était exploration, et deuxième, c'était animal totem. Et j'ai pas été en haut. Voilà.
C'est déjà bien.
Je suis très curieux de voir ce qui pourrait se passer là-haut, quoi.
Bah, tu vois tes guides, en fait. Donc, il y en a qui ont raconté, ils avaient vu leur guide, c'était des trucs assez ouf.
C'était Camille. Alors ça, c'est là où Voltaire a chopé la syphilis.
On va parler des putes.
C'est pour ça qu'elle est pas là, en fait. Elle est dans le monde, du coup.
C'est ça. Elle guide les gens.
Super intéressant. C'est assez particulier.
J'ai jamais entendu finir un sujet par autre chose que super intéressant.
Bah oui, mais en même temps, je vais pas vous dire. Mais écoute, c'était bien de la merde. Je propose que tu ne reviennes pas. Non, c'est toujours. C'est le but aussi de ce podcast, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Donc c'est super sympa. C'est vrai que c'est pas facile à aborder parce que.
Elias avait l'air constipé pendant tout le long du sujet.
Ah non, mais moi, j'avoue, je suis ultra terre à terre, pas forcément. Mais le côté pas théologique en l'occurrence, mais le côté folklore, etc., ça me parle pas vraiment, voire pas du tout.
Ouais, mais faut aller, parce qu'en fait, ce côté folklore, il n'existe pas réellement.
Oui, c'est une autre manière de parler.
Il y a quand même une meuf que je connais pas qui me joue du tam-tam, quoi, donc...
C'est du tambour.
Bah, elle en joue quand même.
Ça fait trois fois qu'on te le dit, putain.
Non, mais donc, ça, c'est notre côté africain.
Oui, voilà, nous, c'est la derbouka, c'est parti, et puis un tel à Moussa, on fait ça aussi au Maroc.
Enfin, c'est à quel niveau qu'il y a un tagine?
Non, quel dieu, voilà. T'en as qui font de la percu, t'as des petits flutios, du thé à la menthe, et puis voilà. Les gens rentrent en transe, ils dansent. Non, mais c'est intéressant pour le côté méditation, etc. Mais c'est vrai que de prime abord, ça perturbe. C'est quelque chose qu'on connaît pas. Donc, puis bon, on me dit, tu vas rencontrer ton animal totem. Mais j'ai pas envie. Enfin,
laisse-moi.
C'est ça, laisse-moi tranquille. Écoute, pourquoi pas.
En parlant de terre à terre, du coup, on va.
Oui, vous allez voir qu'on
va changer de sujet.
On n'a pas tout à fait les mêmes sujets avec Camille. On va voir ce que ça va donner.
Et de l'actu. Here's what you need to know about the ransomware that's been dubbed WannaCry. Il veut anéantir.
Il est virus. Quand le virus a frappé, pour des raisons assez évidentes, les premiers à être passés à la casserole, c'était les petits gros.
Et ouais, comme le dit ce jingle, je vous parle des ransomware, autrement appelés les rançongiciels en français.
Les rançongiciels.
Et ouais, bah oui, cocorico, bordel, on parle français.
C'est vraiment une définition française ou c'est le nom québécois?
Je pense que c'est vraiment le nom français parce que t'as des organismes comme l'ANSSI, donc Agence Nationale de Sécurité, de Sûreté des Systèmes d'Information, qui utilisent le terme rançongiciel. Donc je pense que ça va être le terme officiel français.
Et qu'est-ce que c'est?
Justement, est-ce que certains d'entre vous peuvent...
Je pense que étymologiquement, on peut trouver.
J'ai pas compris.
Rançon, giciel.
Pour demander
de rançon.
De l'argent.
Et ouais, mais...
C'est une manière de pénétrer dans un ordinateur.
Et vu que vous connaissez
l'argent.
Vu que vous connaissez, le sujet est fini.
Non,
voilà, merci,
pas.
C'était pardon.
Allez, salut.
Explique.
Déjà, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs attaques récemment, des attaques très très importantes à base de rançon giciel. Qui ont mis à mal des grandes entreprises, des hôpitaux, etc. Donc c'est vraiment, c'est pas une mode, mais c'est un courant qui est assez dangereux et qui commence à faire des ravages. C'est aussi un courant, on va dire, du hacking. On va voir qu'on va retrouver plusieurs notions qu'on a abordées dans le premier épisode. Alors, donc on va voir effectivement qu'est-ce que c'est qu'un rançongiciel, enfin un ransomware. C'est un logiciel en fait qui va prendre en otage l'ordinateur de la cible afin de lui soutirer de l'argent. Donc le virus prend possession de la machine et empêche son utilisation et demande une rançon et l'ordinateur sera débloqué une fois que la rançon est payée. Jusque là c'est assez simple.
C'est pas gentil.
Ouais, si tu payes pas, ça efface tes données.
Justement,
pas tous.
Il y a plusieurs types.
Il fait exploser l'ordinateur.
Ça c'est pas possible.
Non, si ça serait possible.
Faire surchauffer le.
Imploser, ouais. Tu peux faire tourner le truc à fond. Bon, c'est jouable. Donc il y a deux grands types de ransomware justement. Il y a ceux qui bloquent les programmes. On peut voir sur les années 2000, il y a beaucoup de gens qui ont pu voir ça malheureusement malgré eux. Il y avait des virus du style, on appelait ça virus gendarmerie, etc. En fait il y avait un virus sur votre ordinateur qui vous disait que on avait détecté une activité louche sur l'ordinateur et qu'il avait été utilisé pour des activités pédophiles, etc. Donc que la gendarmerie avait bloqué l'ordinateur par mesure de sécurité et que pour le débloquer il fallait payer une rançon. Donc il y a plein de gens qui se sont retrouvés avec leur ordinateur bloqué comme ça, en fait on pouvait rien faire. Sur la moindre action, il y a une page internet qui s'ouvrait disant ça. Donc ça a bien foutu la merde. Mais ça ne pourrissait pas les fichiers. Et il y a un deuxième type de ransomware, donc la deuxième famille, ces ransomware vont crypter les fichiers. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils vont avoir pris possession de l'ordinateur, ils vont prendre une partie des fichiers ou la totalité. Ils vont les crypter, ce qui va les rendre inutilisables, et ils seront décryptés que après que la rançon soit payée ou qu'on ait trouvé une solution.
C'est quoi crypter un fichier?
Eh ben, je vais faire quelques petites métaphores. Pour le premier type, alors je vais, pour les puristes, je vais énormément simplifier, mais c'est juste pour se faire une petite idée. Pour le premier type, le blocage des programmes, imaginez que votre ordinateur, ça va être un appartement ou une maison. Déjà, pour mettre un virus dedans, il y a plusieurs façons si on veut rentrer dans l'appartement. On peut rentrer par la porte, mais on peut rentrer par la fenêtre. On peut rentrer, allons-y, on part dans la folie, on peut rentrer en faisant un trou dans le mur, en faisant un trou dans le toit, en passant par les canalisations, enfin, il y a plein de possibilités.
Souvent, on va plutôt rentrer par la porte de derrière.
Aussi.
Ou la cheminée.
La back door.
Non, c'était, je tendais une perche, mais en fait, elle a servi à rien.
Oui, la cheminée aussi, non, en fait, c'est pour dire qu'il y a plusieurs moyens, et que si vous dites, je sais pas, ouais, j'ai mis une VMC ou une aération dans l'appartement, ça peut être un moyen de rentrer dans l'appartement, en fait. Donc si vous utilisez un logiciel en particulier, ça peut créer une faille sur votre ordinateur. Donc pour le premier type, c'est quelqu'un qui va trouver un moyen de rentrer dans votre appartement et qui va bloquer les issues. Globalement, soit il va bloquer les issues, genre bloquer la porte, soit, attention c'est vraiment de la métaphore, mais il va s'amuser à gluer tout ce qu'il y a dans l'appartement. Donc vous pourrez plus rien utiliser, vous pourrez rentrer dedans, mais vous pourrez plus utiliser l'eau, vous pourrez plus utiliser l'électricité, plus rien bouger, etc. Et si vous le payez, il va tout débloquer et vous pourrez le réutiliser. Donc ça, globalement, vous vous dites, je peux pas utiliser l'appartement, ce qu'il y a dedans, etc., mais je peux rentrer dedans, je vois que tout est en place. Ok, bon, jusque-là, c'est jouable. Le deuxième type, avec le cryptage, là, c'est plus compliqué. Imaginez que... Attention, ça part en couille au niveau des métaphores. imaginez, c'est un mec qui va prendre votre appartement, et déjà, il va le décomposer comme des petites briques de Lego. Donc déjà, c'est le bordel. Il va prendre le Lego, il va les dégager. Donc il va les mettre en tas quelque part, sauf que lui sait comment c'était avant, comment il l'a découpé, donc il saura le refaire. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. Chaque petit Lego, imaginez que ça sera un petit puzzle en fait. Donc c'est vraiment, c'est quasiment infaisable de reprendre tous les petits bouts ensemble et de refaire l'appartement, ça serait pas possible. Et lui, il a la méthode pour le faire, donc il pourra le faire parce qu'il a le plan ou il a une machine qui fait ce truc-là. C'est globalement le cryptage, c'est qu'on prend les informations et on les met sous une autre forme où c'est impossible de le refaire si on n'a pas la méthode.
Ok.
Ok. Ça va, est-ce que c'est clair ?
Oui, jusque-là,
oui, ça va.
Ce qui est intéressant et marrant, on va dire, c'est que c'est en fait une évolution du milieu du hacking, parce que les premiers virus, en fait, ils étaient faits pour détruire, ils étaient faits pour voler des informations, mais ils n'étaient pas faits pour... Enfin, il n'y avait pas de mouvement encore pour...
La rançon.
Mais voilà, pour soutirer de l'argent, etc. Pour
c'est
vraiment
un peu
pour...
western.
Et, exactement, c'est totalement ça.
Bah, le Far West des temps modernes, ouais. C'est Internet, en toute façon.
Ah ouais, c'est...
Oh là,
c'est...
Dixit, Juan.
Mais alors, de ce que j'ai compris, tu peux quand même accéder à ton fichier, mais tu peux pas réécrire dessus ou l'enregistrer à nouveau, tu peux le lire par contre.
Ça dépend des ransomware.
Ouais, ça dépend. Il y en a où, si tu trouves un moyen détourné, on va dire, tu vas pouvoir le récupérer, et d'autres où, clairement, le fichier n'est plus là, c'est mort. Enfin, c'est pas qu'il est plus là, c'est qu'il est rangé quelque part sous une autre forme. Et... Pour ceux qui ont suivi le premier épisode, on a parlé de hacking. À votre avis, qui crée et manipule les ransomware ?
Des méchants hackers, potentiellement.
Et autrement appelé.
Un pirate.
C'est pourquoi je vois que personne n'a suivi, c'est cool, les Black Hat.
Oh, Black Hat.
Voilà.
Oui, oui.
Et c'est
mais si c'était la gendarmerie, c'était les gentils.
voilà. on peut penser que c'est les Black Hat, donc ça on l'a vu pendant le dossier sur le hacking, mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas que des Black Hat qui font ça. Et donc pour ça, on va s'intéresser au premier, le tout premier ransomware. Et vous allez voir, l'histoire est assez improbable. Et je vais vous expliquer d'ailleurs le lien entre le virus du sida et le tout premier rançongiciel. Attention, ça déconne pas.
Ambiance.
Ouais.
J'ai pas de jingle.
Non, le sida. Non.
Jingle capote.
Une histoire de singe.
Non. Un singe qui tapait sur un ordinateur, il a fait un logiciel. Voilà. Non, en fait, c'était le premier ransomware. En fait, il venait d'un logiciel, virus qu'on appelait le AIDS Infodisk, aussi appelé PC Cyber Trojan.
Trojan.
Oui. Allez, on va dire Trojan.
Trojan.
C'est Trojan. Donc voilà, en fait, c'était en 1989. Il y a la société PC Cyber Corporation qui a envoyé plus de 20 000 disquettes par la poste à une liste de diffusion. Donc oui, à l'époque, oui, par la poste, il y avait des listes de diffusion comme les emails. Mais là, 1989, c'est assez vieux.
Excellent.
Déjà disquette, c'est pour dire.
Ils avaient aussi, si vous envoyez pas cette lettre, un enfant va mourir.
Non, mais c'est beaucoup plus vicieux que ça.
C'est du casse-couilleware, ça.
Honnêtement, non, l'histoire est assez magique. En fait, cette disquette, elles n'étaient pas méchantes en elles-mêmes. Il y avait un logiciel d'information sur le sida pour sensibiliser les gens, etc. Donc on peut quand même saluer l'action, etc. C'est assez intéressant. Sauf que si on regardait bien sur les fichiers du logiciel, il y avait un petit contrat d'utilisation du logiciel. En gros, les mentions légales, le contrat d'utilisation final, quoi.
Le truc qu'on lit pas, quoi.
Exactement, et comme on peut en avoir avec iTunes, avec Spotify, avec tout, de nos jours, tout logiciel à ça. Et donc on voyait, alors j'ai fait une petite traduction et une simplification, mais donc globalement ça donne...
Vulgarisation.
Et globalement, ça donne « Si vous installez ce logiciel sur votre micro-ordinateur, alors selon les termes de cette licence, vous acceptez de payer PC Cyber Corporation pour l'utilisation de ce programme. Dans le cas de la violation de ce contrat,
PC Cyborg se réserve le droit de prendre les mesures légales nécessaires pour recouvrer les dettes envers PC Cyborg Corporation et d'utiliser les mécanismes de ce programme pour assurer la résiliation de votre utilisation. Déjà, ça commence un peu chaud.
Mais ça pue.
Ces mécanismes affecteront négativement les autres applications de votre ordinateur. Vous êtes informé des conséquences les plus graves de votre manquement aux conditions du présent contrat de licence. Et ça finit par « Votre conscience peut vous hanter pour le reste de votre
vie. » Ah, les bâtards.
Oh,
donc déjà, gros coup de pression. Donc si on simplifie, alors déjà, ça déconne clairement pas. Et si on simplifie, ça veut dire que, mec, je te donne un logiciel, tu l'utilises si tu veux. Par contre, si tu l'utilises, faut payer. Enfin, faut pas déconner, t'as été prévenu. Et si tu payes pas, bah, gare à toi, quoi. On va t'éclater ton PC.
On appelle ça Faust.
Donc imaginez si de nos jours, iTunes faisait ça. Alors, vous avez le droit d'utiliser iTunes. Par contre, si vous écoutez pas Rihanna au moins une fois par semaine, on bute votre PC. Bah, ça serait jouable et pourtant ça serait un peu la merde. Ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, en fait, c'était une zone un peu grise en termes de. En fait, c'est le premier contrat vraiment agressif en termes de gestion de droits d'auteur, etc. Oui. Et c'était une zone un petit peu grise, donc c'était un petit peu compliqué.
Mais c'était à quand tout ça ?
1989.
Ouais, donc il n'y avait pas encore toutes les lois anti.
Ouais.
T'étais même pas né.
Non, effectivement. C'était. Bah, ça préparait mon arrivée, non, rien à voir.
C'est comme ça que mes parents sont connus.
Alors, pour expliquer un petit peu plus en détail là, ce que contenait la disquette, donc en fait, elle contenait effectivement un logiciel d'information sur le sida, c'était pas malveillant à la base, le logiciel qui était, bah, je perds, très intéressant, mais en plus, il y avait un petit programme qui était fait pour faire respecter cette licence. Et il était un petit peu vicieux, parce qu'en fait, il comptait le nombre de redémarrages de la machine, et au bout de 90 redémarrages, il cryptait l'ensemble du disque, donc ce qui rendait l'ordinateur inutilisable, en fait. Si le fichier n'est pas lisible, l'ordinateur ne peut plus fonctionner. Et il affichait juste un message qui demandait à l'utilisateur, à la victime en fait, d'envoyer la somme de $189 à une boîte postale au Panama au nom de PC Cyborg Corporation.
Ah oui, au Panama.
Ah oui, bah, voilà. La région était bien choisie, mais surtout c'était très artisanal quoi. Tu envoies un chèque par la poste, pas très tech tout ça. Donc bon, les mecs avaient un petit peu les boules. Alors à votre avis, qui a pu faire ce genre de logiciel ?
Non, François Fillon.
Pas loin, c'est son fils, non, pas du tout. Non, en fait, c'est un mec qui s'appelle Joseph Pop, et plus précisément le docteur Joseph Pop. Oui, le Pop, c'est vraiment, c'est pas un diminutif.
Oui.
Il était biologiste et anthropologiste, donc en fait, c'était un sacré personnage. On peut se dire que c'est un gros salaud, etc., parce qu'il a quand même fait un ransomware, mais en fait, pas du tout. Ou en tout cas, il a fait quand même des choses intéressantes. Il a travaillé notamment avec l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, notamment dans des pays d'Afrique sur la sensibilisation, sur le sida, etc. Il travaillait aussi avec l'AMREF, donc African Medical and Research Foundation, une ONG très présente en Afrique et avec une excellente réputation. Et en fait, alors, il a été inquiété, donc on a bien découvert que c'était lui, il a été inquiété une première fois alors qu'il revenait du Kenya où il donnait une conférence. Il a été contrôlé, un contrôle par hasard, enfin aléatoire, à l'aéroport, dans un aéroport aux Pays-Bas. Et on a retrouvé dans ses bagages déjà un tampon de la PC Cyborg Corporation. Déjà, les mecs se sont dit, c'est louche, c'est super louche. Le deuxième truc qui l'a inquiété, en fait, c'est qu'on a remarqué que le code du logiciel, du logiciel qui contenait le ransomware.
1, 2, 3, 4.
Non, le code.
Non, le code informatique.
Le code génétique. tu vois. Un logiciel, c'est du code.
Ah, le A, le code pour les... D'accord.
Oui, informatique.
Le code pour les... Oui, tu sais, ouais.
Alors en fait, il correspondait étrangement, enfin, il collait étrangement à un logiciel qui était développé pour l'OMS et qui s'appelait EpiModel. Et hasard, peut-être, mais en fait, donc Pop, il revenait du Kenya pour une conférence où il avait fait justement une présentation sur EpiModel. Donc là encore, le doute
le doute s'accroît. Hein.
Non, le doute s'accroît, ça y est, ça suffira. Et la troisième chose qui a eu raison de lui, en fait, définitivement.
Le sida.
Oui, exactement. Pas du tout, putain, c'est horrible.
C'est là où ils ont fait le lien.
Non, en fait, c'est que c'était lié au mécanisme de cryptage du logiciel. En gros, ce logiciel utilisait un mécanisme, alors je vais essayer de simplifier aussi, mais un mécanisme de cryptage symétrique, c'est-à-dire qu'il utilisait, en fait, pour crypter des fichiers, on utilise une clé, un peu comme pour crypter des messages pendant la guerre, etc., les espions. Donc, il y a, à partir d'une phrase, par exemple, tu peux crypter un message. Et quand c'est symétrique, tu utilises la même phrase pour crypter et pour décrypter. Il y a une méthode symétrique. Mais ce qui fait que vu que tu utilisais la même phrase dans les deux cas, c'est-à-dire que le logiciel contenait cette phrase. Donc il y a des chercheurs en sécurité qui ont décortiqué le logiciel et qui ont trouvé la clé de cryptage qui n'était autre que Dr. Joseph Lewis Andrew Pop Jr. 3.
Oh, oh.
Là, globalement, le mec était grillé, quoi. Donc il a fini par avouer et s'est défendu en disant que tout l'argent gagné par la PC Cyborg Corporation irait à la recherche contre le sida. Donc c'était quand même sympa de sa part, vrai ou faux, on ne le sait pas.
La recherche se finance comme elle peut. Hein.
Mais le mec était motivé, ça, clairement, on peut pas lui retirer. Hein.
En fait, je pensais que dès le début, c'était il gagnait de l'argent justement pour le remettre dans ses recherches, etc. Et on sait pas trop, en fait, c'est un peu flou.
Bah, c'est ce qu'il a annoncé, mais en fait...
En même temps, il recevait des chèques par la poste.
Mais on n'a pas de chiffres dessus, mais il y a certains experts d'aujourd'hui qui ont analysé le cas et qui disent que c'est possible qu'il ait reçu 0$, en fait.
Ouais.
Parce qu'à l'époque, 189$, c'était une somme vraiment conséquente, donc c'est possible qu'il ait rien gagné du tout. Ce qui est bizarre, c'est que en fait, ce mec il a tenu des propos incohérents déjà quand il était arrêté aux Pays-Bas, devant la justice, etc. Il avait des théories complotistes, il disait que le gouvernement utilisait le sida pour faire un contrôle démographique, etc. Le mec était clairement ailleurs. Et bon, bah, finalement, il a été déclaré mentalement inapte. Et donc, il a échappé.
Il a pas pris trop cher, quoi.
Bah, il a même totalement échappé à la prison. Donc, c'est quand même bien fini pour lui. Oui. Après.
Tu disais enfin, que ça 89 c'était beaucoup, mais on est sur une équivalence parce que la plupart des ransomware aujourd'hui c'est dans les 300$, si j'ai pas de conneries.
Donc l'équivalence financière, honnêtement je l'ai pas, mais effectivement apparemment pour l'époque, surtout vu le prix du matériel, etc., les gens avaient pas encore portaient pas autant d'importance à leur donner. Donc on wipait le truc et ça, c'était reparti.
On wipait.
On effaçait l'ordinateur et c'était reparti. Pour la petite fin, parce que ce personnage est quand même sympathique, en fait après cette histoire il s'est remis à ses premiers amours, donc l'anthropologie. Il perdra malheureusement la vie le 27 juin 2006 dans un accident de voiture, et toute la communauté en fait était vraiment, vraiment en deuil parce que il a fait vraiment des très beaux projets, notamment un musée des papillons, et il est mort quelques temps avant l'inauguration de ce musée qui portera d'ailleurs son nom, c'est le Joseph L. Pop Butterfly Conservatory, et il existe toujours et honnêtement ça a l'air magnifique, il y a des oiseaux, des reptiles, des papillons. C'est vraiment beau.
On pourra y aller, Camille, ça te rappellera les étages en dessous.
Le monde du bas, ouais, grave, je vais y aller.
Voilà, donc c'est quand même intéressant comme premier cas, et surtout, moi, je ne m'attendais pas du tout à avoir ça comme premier cas de ransomware. Maintenant, on va s'intéresser à... Faut savoir que ça, c'était le tout début, c'était avant le début des années 90, et en fait, il a fallu attendre à peu près les années 2000 avant que ça se développe vraiment. Et qu'est-ce qui a changé, surtout, qu'est-ce qui a permis vraiment l'explosion de ces ransomware, parce que maintenant, c'est beaucoup plus fréquent. Il y a une première chose, c'est le paiement à distance en fait.
PayPal, la monnaie virtuelle.
Voilà. Parce que initialement, le mec il demandait de lui envoyer des chèques à une boîte postale, enfin niveau anonymat, c'était à peu près zéro.
Mais surtout qu'aujourd'hui tout le monde a un PC et on a chacun nos trucs dedans, donc ça peut se développer plus facilement quoi.
Oui, il y a peut-être plus d'ordinateurs personnels qu'à l'époque. Ouais.
Oui, et puis il y a plus de sites, mais surtout pour que ça soit lucratif, il faut que tu puisses gagner de l'argent et le faire discrètement. Parce que les moyens de d'antifraude sont aussi plus forts. Il y avait déjà les codes de rechargement par carte, etc. Même les trucs qu'utilisent les arnaques de type bonjour, je suis un prince, envoyez-moi 500$ par je ne sais quel moyen.
Western Union.
Exactement. Et je vous renverrai 4 millions par la poste. Donc ça, c'était.
Promis, voilà.
Ça, c'est déjà utilisé dans pas mal d'arnaques. Et surtout, la plus grosse évolution qui a le plus servi ces trucs-là, qui est maintenant vraiment généralisé, c'est l'utilisation du bitcoin. Donc j'ai passé très très vite dessus parce que ça mérite un sujet entier en fait, mais le bitcoin, c'est une monnaie virtuelle où en fait on va avoir un portefeuille numérique mais qui est lié à des fichiers, donc qui est lié à un disque dur et qui va pas être lié à une personne, un nom. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir la référence de notre portefeuille de bitcoin si on a un hacker et se faire payer dessus, et après on va pouvoir blanchir l'argent dans les bas-fonds d'internet.
Ça, c'est surtout dans le dark web là.
Ouais. Enfin, entre autres, parce que maintenant on peut acheter plein de choses légales avec.
On peut faire plein de choses avec le bitcoin, mais l'économie principale du bitcoin, oui, je pense que ça se passe.
Donc, le bitcoin, c'est quand même utilisé.
De plus en plus.
D'accord, ok.
Il y a des services.
Il y a des concurrents, surtout. Il y a de plus en plus de monnaies virtuelles qui se créent. Et d'ailleurs, c'est la meilleure filiale d'investissement aujourd'hui. Si tu veux investir de l'argent, c'est de s'intéresser aux monnaies virtuelles et d'investir dedans, parce que c'est clairement ce qui explose le plus. Les gens qui ont investi dans le bitcoin quand ça a démarré, ils sont tous riches maintenant.
Ok.
Mais riches,
c'est riche.
Hein, riche.
J'en ai entendu, j'ai cru que ça s'est cassé la gueule, que justement plus personne utilise ça.
Bitcoin, non, c'est pas que plus personne utilise ça, c'est qu'il y a des concurrents un peu plus cohérents, un peu plus réfléchis, puisqu'il y a des années de réfléchi derrière, qui commencent à prendre le dessus, puisqu'ils sont basés sur des trucs un peu plus intéressants que le bitcoin.
D'accord.
Mais ça se développe beaucoup et il y a plein d'assos, même des vraies entreprises reconnues qui acceptent le bitcoin comme paiement. Donc voilà, pour blanchir l'argent, ça pose pas vraiment de problème. La deuxième grosse évolution, en fait, c'est le cryptage asymétrique. Donc pareil, là, on va absolument simplifié, mais comme on disait, pour le cryptage symétrique, si on utilise la même clé pour crypter et pour décrypter, elle se trouve dans le logiciel. Cryptage asymétrique, on en utilise une pour crypter et une autre pour décrypter, ce qui fait que le pirate peut garder la clé de décryptage au chaud tranquillement chez lui, attendre d'être payé et là l'envoyer. Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible, comme on disait avec la métaphore de la maison. Si le mec t'a pas envoyé le plan, tu peux pas, quoi, c'est ingérable. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut penser aux diverses évolutions, et en fait c'est déjà en route, hein, en fait c'est pas tout à fait le futur, hein, c'est même plutôt le présent. Il y a une évolution possible et prochaine avec les objets connectés. Vous pouvez imaginer ce que ça pourrait donner, ce genre de...
Ah, on pirate ton objet connecté.
Ouais, et surtout, t'imagines une maison...
Ton œil de verre connecté.
Oh.
Non, mais une maison où c'est full connecté, genre ton frigo, ta cafetière, ton rasoir, ta télé, ton machin et tout, tes caméras et tout. Déjà, il y a déjà eu des cas de chantage où on te prenait en vidéo, etc., et on te menaçait de publier... voilà,
non.
Ouais. Ça existe
c'est
déjà.
Un gros problème au niveau sécurité derrière les objets connectés parce que c'est très très vulnérable. Mmh. Et en effet, j'avais entendu que dans le futur, quand on te piratera, ce sera pas ton ordinateur, ce sera ton ampoule connectée ou ton chauffage. On va te foutre le chauffage à fond et dire bon, maintenant tu payes.
Bah, ça, anecdote, il y a des chercheurs qui ont créé un exemple, en fait, c'est pour la recherche, mais de ransomware basé justement sur les thermostats connectés, sur les radiateurs connectés. Et ils mettaient ça à fond et demandaient le paiement d'une rançon. Et ce qui fait que, bah, en gros, tu dis bah, soit déjà il fait 40 degrés chez moi et en plus je paye l'électricité pour ça, soit je paye, mettons, ne serait-ce que 20 balles. Bah, t'as envie de payer 20 balles en fait, c'est super efficace, c'est vraiment très très
et
fort.
Et tu vas porter plainte en fait, c'est légal
Non, contre... c'est absolument pas légal.
C'est complètement illégal, mais contre qui tu vas porter plainte? Tu vas déposer plainte contre X, mais tu n'as aucun moyen de savoir qui est responsable.
Mais je pense qu'avec le temps,
ça, tu fais un peu peur.
Évidemment, au fur et à mesure que les failles se créent, on crée des ciments pour les refermer, mais il y a toujours un laps de temps où il y en a qui arrivent à se faire du pognon.
Et bah, du coup, j'en profite pour reparler de Mr. Robot. On avait parlé bien temps sur le sujet, sur le hacking. No spoil, parce que ça va être des toutes petites anecdotes, ça ne casse en rien l'histoire. Mais dans la saison 1, si je dis pas de bêtises, il y a justement un mec qui a une personne qui a réussi à infecter une autre personne. Et en fait, elle a pris le contrôle de son ordinateur. Elle a filmé des choses que la personne ne voulait pas voir révélées. Donc en fait, elle trompait quelqu'un. Et elle l'a fait chanter. Et ça a fonctionné. Parce que tu te dis, ça va détruire ta vie. Tu préfères céder au chantage. Donc c'est très très efficace, malheureusement. Et on peut aussi imaginer des trucs parce qu'il y a pas mal d'évolutions qui sont pas intéressantes, qui sont juste absolument flippantes par rapport à l'assurance. Imagine, on vend certaines informations à ton assurance. Ah, le mec, il boit 9 cafés par jour, il dort pas, il fait pas de sport, il regarde la nouna, il fait je sais pas quoi. ça peut faire sourire, mais t'envoies à ton assurance ce genre de truc. Tu veux faire un prêt ou à ta banque, tu veux contracter un prêt ou autre, ils vont te dire non, vous buvez 10 cafés par jour, vous allez
faut claquer. Regarder la nouna, non.
Vous, non, mais pas vous allez claquer dans 10 ans, c'est pas possible. Et honnêtement, ça peut être ravageur pour ta vie. Bon, déjà, tu ferais mieux de pas boire 10 cafés par jour, mais bon, c'est une autre question. Donc, déjà, ça c'est assez flippant. Et on peut aussi imaginer le cas de maison full connectée. Ça pour le coup, sera plutôt dans la saison 2 de Mr. Robot. Imagine, de nos jours, tout ce que je vais citer existe, mais des serrures connectées, des portes connectées, des fenêtres connectées, les radiateurs, la clim, le machin, etc. Si tu perds le contrôle de tout ça, tu viens d'enfer. Ton logement est absolument invivable. Ouais, c'est vraiment l'horreur.
On n'a pas attendu Mr. Robot pour ça, les Jetsons, les Simpsons, ils ont fait des épisodes là-dessus. Enfin, c'est,
J'ai complètement oublié ça.
ils avaient aussi parlé de ça.
Alors, ce qui m'a donné envie de faire ce sujet, c'est que, comme je disais, il y a eu des cas d'attaque de ransomware assez imposantes très récemment. Donc, on a notamment WannaCry, NotPetya, etc. Donc, je vous laisse vous renseigner dessus parce que c'est vraiment.
WannaCry a fait beaucoup de bruit, ils en ont même parlé dans des informations.
T'en as un peu connu avec.
Justement, WannaCry et Petya, NotPetya, c'est un.
NotPetya est plus récent, c'est
ça
cette
date
semaine.
De la semaine dernière. Et c'est vraiment monstrueux. Enfin, si vous tapez juste NotPetya, P-E-T-Y-A, sur internet, vous allez trouver une montagne d'informations. Et surtout, en fait, le cas est toujours pas réglé.
Mais rien qu'à l'échelle personnelle, j'ai plusieurs potes qui sont actuellement au boulot sur des machines professionnelles, immobilisées à cause de NotPetya.
Donc c'est vraiment conséquent.
C'est Air France aussi qui a eu des problèmes, je crois, à cause de. C'était WannaCry ou NotPetya?
NotPetya, je pense.
D'accord.
Enfin, j'ai dit peut-être une bêtise, mais ce qui a fait vraiment beaucoup d'aide, parce que WannaCry a été arrêté assez vite, entre guillemets, par hasard. Mais arrêté assez vite.
Par hasard, non, c'est un Anglais qui a trouvé le.
Ouais, mais il a assumé lui-même qu'il avait.
Qu'il n'avait pas fait exprès.
Voilà, il ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne, en fait.
Okay.
Donc c'est assez étonnant. On peut se demander, mais pourquoi ces mecs font ça, en fait? Pourquoi ça devient un courant pas majeur, mais quand même assez important? Mais parce que c'est ultra rentable. Maintenant, ils commencent à avoir des cibles qui sont vraiment importantes, grosses, des institutions, donc des hôpitaux ou des grosses entreprises ou justement des services publics, etc. Et en fait, c'est assez simple parce que si les ordinateurs sont immobilisés pendant une journée, ça coûte beaucoup plus cher que de juste payer une rançon. Et il y a des hôpitaux aux US qui ont accepté de payer des rançons de plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est énorme. Parce que le fait de s'arrêter ne serait-ce qu'un jour, ça leur a coûté beaucoup plus.
Ça aurait fait surtout des centaines de morts.
Je trouve ça en plus.
Ah non, mais c'est vraiment flippant. Impressionnant. Je vais finir juste avec quelques tout petits conseils. Ça pourrait être de l'évidence, mais...
Mettez une majuscule et un chiffre dans votre mot de passe.
c'est de ce style-là, en fait. Tous les plus grands spécialistes le conseillent. Et en fait, c'est du bon sens et de la simplicité. Mettez à jour vos logiciels, tous. Il peut y avoir des nouvelles failles, etc. Pour de vrai, c'est vraiment super utile parce que quand il y a une faille qui est déclarée, publiée, etc., Bah, tout le monde est au courant, que ce soit les chercheurs en sécurité ou les hackers.
D'ailleurs, on a découvert récemment que les ordinateurs qui gèrent encore ce qui reste de Tchernobyl sont sur des Windows 98 pas à jour, je crois.
Sérieux ? Ah.
C'est sympa. Le meilleur Windows.
Non, non, c'est formidable. Les gens traitent ça vraiment à la légère, alors que la sécurité, on va pas en parler parce que ce serait un sujet gigantesque, mais c'est vraiment flippant. Pas plus tard, ben Monica, qui n'est pas là aujourd'hui, nous a récemment parlé d'un cas où elle s'est inscrite sur un site d'une institution nationale qui lui ont renvoyé un mail où son mot de passe était inscrit en clair dans l'email. C'est, enfin, on marche sur la tête.
Et sinon, bah, un petit truc aussi très facile à faire et très utile, c'est de sauvegarder vos fichiers sur un disque dur, une clé USB ou quelque chose qui ne va pas être relié au réseau.
Une disquette ?
Non, ça fait un peu petit. Mais en fait, ça permet simplement, si votre PC se fait éclater, pas de problème, on éclate tout, on remet les données et c'est reparti comme un 40, ça vous prendra 3 heures et au moins vous ne vous inquiéterez pas.
Oh, you went there.
Oui, oui, j'aime les expressions désuètes. Voilà, je sais pas si vous avez des questions, si ça vous a fait peur, passionné.
Ouais, ça fait peur.
Un petit peu.
Non, moi, j'avais vraiment le nez dedans, comme je t'ai dit, au niveau actualité, on en bouffe en ce moment du ransomware. Donc,
Ouais, bah, j'ai passé les détails parce que vraiment, c'est. En fait, il n'y a pas encore de conclusion, donc je vais pas vous dire des bêtises parce que ça change tous les jours. Un coup, c'est la Russie, un coup, c'est des hackers indépendants, un coup.
C'est le turfu.
Et ouais. Bah, du coup, ce podcast va toucher à sa fin.
Ça fait bizarre quand c'est toi qui termine, quand c'est toi qui fais le dernier sujet.
Sur le 3, c'était moi aussi.
C'est possible.
Mais non, voilà, ce podcast va toucher à sa fin, mais c'est encore un énorme plaisir pour nous. Encore énormément de merci à tous ceux qui nous ont reliés, likés, qui nous ont contactés. Il y en a qui nous ont envoyé des petits messages super sympas, des commentaires sur iTunes. Plein de belles étoiles, plein de commentaires super sympathiques.
Des échanges sympas sur Twitter aussi, continuer, ça fait plaisir de discuter un petit peu.
Avec des personnes vraiment super sympas. On vous prépare des surprises de ouf pour septembre. Donc vous allez voir, vous allez être super contents.
Ça veut pas dire qu'on prend des vacances.
Oui, oui, alors ça veut dire qu'on se retrouve dans tous les cas dans 2 semaines, mais on va vous préparer vraiment des belles choses parce que bah, on est content de ce qui se fait et qu'on va essayer de faire encore mieux et plus beau. Et voilà, bah, dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, nous faire des pouces sur Facebook, faire vous abonner.
Faire des pouces sur Facebook.
C'est on possible. Peut dire merci.
Tu feras des pouces. Et voilà, et puis likez, si vous pouvez mettre 5 étoiles sur iTunes, ça fait vraiment plaisir parce que bah, c'est l'occasion de faire connaître le podcast et ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous.
On prend aussi les insultes sur Twitter si vous voulez.
Allez, on vous attend.
Allez, bisous.
Allez, c'est, ce c'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Ce qu'il dit.
C'est vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
C'est horrible, c'est bon. Tu sions, c'est Elias. Ouais, c'est Elias.